BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Allez, il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez dans Good evening business comme tous les soirs. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à vous.
Quoi de neuf ce soir? La note de conjoncture de l'INSEE avec des signaux un petit peu contradictoires. On va décrypter tout ça dans un instant avec Emmanuel Le Chiffre. Et puis on va en parler entre autres avec votre invité dans 10 minutes, Edwige.
Absolument, Eli Cohen, économiste, un des meilleurs économistes, directeur de recherche au CNRS. Avec lui, on parlera de la croissance, on parlera de Super Mario qui dit c'est simple, il faut revoir à la baisse toutes nos ambitions pour l'Europe, sinon on n'y arrivera pas. Et puis du reste, Luca De Meo, le patron de Renault, lui-même a dit il faut aussi que l'Europe arrête sur l'automobile, l'industrie automobile, parce que sinon, ben, ça va être la catastrophe.
Ça en fait des sujets qu'on décryptera, tout ça à partir de 18h30 avec nos experts, et puis soirée keynote Apple, bien sûr, à partir de 20h, Tech & Co, mais on sera sur le pont du ciel, bien sûr. Voilà le programme, on est donc ensemble jusqu'à 20h en direct.
A tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc, la note de l'INSEE qui est sortie il y a un peu plus d'une heure. Emmanuel Le Chiffre est avec nous pour décrypter tout ça, bien sûr. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Que nous dit l'INSEE donc ce soir? On reste sur l'idée qu'on fera 1,1% de croissance cette année, malgré un petit coup de mot au troisième trimestre. Et alors après, il y a des choses intéressantes, plutôt positives sur la consommation des ménages, beaucoup moins sur l'investissement des entreprises. Si on regarde tout ça, on mélange tout ça, qu'est-ce que ça nous dit, Emmanuel, finalement?
Bah, c'est vrai que maintenant que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont passés, bon, ils auront quand même apporté leur lot de croissance au troisième trimestre. Hein. L'INSEE nous dit 0,3%. Et c'est sans doute d'ailleurs un maximum. Effectivement, tout dépendra du résultat du match qui va se jouer entre consommation des ménages et investissement des entreprises. D'ici la fin de l'année, la consommation des ménages reprendrait un peu d'élan, nous dit l'INSEE. Leurs dépenses immobilières cesseraient de baisser après 3 années de repli continu, grâce au redressement du pouvoir d'achat, permis notamment par les augmentations de salaires et les indexations de prestations sociales. Et puis à l'inverse, on a des entreprises qui risquent de continuer à freiner leurs investissements sous l'effet des incertitudes politiques et donc fiscales, sous l'effet de la dégradation de leur situation financière et des carnets de commandes, puisque l'industrie, hein, jusqu'à maintenant, butait principalement sur des contraintes d'offres. Ça, c'était le cas jusqu'en avril. Et depuis, eh bien, les difficultés de demande ressurgissent et sont désormais aussi souvent citées, particulièrement dans l'automobile. Alors, au final, dernier trimestre légèrement négatif. Croissance de 1,1% sur l'année, vous l'avez dit, Guillaume. Après, qu'est-ce qui peut faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre? C'est vrai que on pourrait se dire que les aléas sont finalement plutôt à la hausse. Les bonnes surprises, ça pourrait être finalement les exportations. Hein. On voit que les carnets de commandes étrangers sont quand même très bien garnis, notamment dans l'aéronautique. Ça, c'est un bon point. Il y a la baisse des taux d'intérêt qui va se poursuivre, qui est plutôt positive, mais dont les effets ne seront pas immédiats. Il y a l'évolution des prix de l'énergie qui est quand même plutôt favorable. Et ça, vous savez que dans ces prévisions, l'INSEE, par convention, hein, fige le prix du pétrole pour ne pas faire de prévision sur le prix du pétrole. Donc là, on se dit que sur les prix de l'énergie, on a sans doute quelques petits points pouillèmes de croissance à gagner. Donc, globalement, une année qui commencerait sans doute sur un rythme un peu supérieur à celui du deuxième semestre, qui est quand même assez chahuté. Mais disons qu'on est toujours sur ce trend de 0,2, sans doute 0,2, 0,3 points de croissance pour le début 2025.
Voilà donc pour cette note de l'INSEE dans laquelle on reviendra à partir de 18h30 avec vous et tous nos experts. Emmanuel, bien sûr, dans l'actualité, il y a donc ce rapport qu'a publié aujourd'hui Mario Draghi. Rapport qu'ils disent, si l'Europe veut rester dans la course, rester compétitive, elle doit investir tous les ans 800 milliards d'euros de plus. Comment? Ça, par contre, c'est un vrai sujet. Thomas Asportas.
Faire un plan de relance post-Covid, mais tous les ans, 800 milliards d'euros. C'est en effet ce que l'Europe avait mis sur la table pour relancer son économie face à la pandémie. Et Mario Draghi appelle les Européens à réemployer la même recette aujourd'hui.
Un financement en commun sera nécessaire pour des projets clés. Ce sera nécessaire pour les réseaux, ce sera nécessaire pour les innovations de rupture. Et faire un financement en commun pose la grande question, qui ne prend pas beaucoup de place dans le rapport parce que c'est seulement une question d'instrument pour atteindre l'objectif. Et la grande question, c'est, est-ce qu'il faut un grand emprunt en commun? Oui, la réponse est oui.
Yes, the answer is yes.
Sauf que pour Ursula von der Leyen, la réponse est non. La présidente de la Commission européenne reste sur la position de l'Allemagne, qui ne veut toujours pas entendre parler d'une nouvelle dette en commun. Berlin donne la priorité à l'assainissement des comptes publics en Europe après 4 années de crise. Et plutôt qu'une nouvelle dette, Ursula von der Leyen suggère de booster le budget de l'Europe, soit avec plus d'argent de la part des États membres, soit avec de nouvelles taxes européennes.
Thomas Asportas, et puis d'ici 20h, je vous le disais, c'est l'événement sur lequel on va monter en puissance, la keynote d'Apple qui va se tenir à Cupertino. En Californie, bonsoir Melinda d'Avansoulas, vous êtes sur place, on l'a compris, on va largement parler IA générative ce soir Melinda.
Vous savez, chez Apple, les choses sont toujours bien organisées. En juin, on vous présente les systèmes d'exploitation. En septembre, les nouveaux iPhones qui supporteront les nouveautés logicielles. Cette keynote ne dérogera pas à la règle. Apple mise sur ses nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro pour relancer des ventes un peu au ralenti ces derniers mois. Pas de grandes nouveautés sur le design à attendre. Non, ce sera à l'intérieur. Apple présente aujourd'hui ses premiers véritables smartphones portés par l'IA avec l'arrivée d'Apple Intelligence et toutes ses promesses. Une belle révolution en vue pour Apple, histoire de se mettre à niveau de la concurrence aussi. Mais avec un souci de taille, on ne sait pas quand Apple Intelligence sera déployé sur deux marchés clés pour la marque, l'Europe et la Chine. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il faudra donc bien plus qu'une puce plus puissante, quelques fonctions nouvelles pour donner de l'intérêt aux nouveaux venus. Néanmoins, tous les analystes prédisent déjà une forte demande. Mais le salut viendra peut-être de l'Apple Watch, la montre connectée fête ses 10 ans cette année, le premier produit inédit lancé par Tim Cook en 2014, qui a su créer un véritable marché sans en être pourtant pionnier. Un marché dont Apple est leader aujourd'hui avec des millions de ventes et un produit porteur. Désormais, il se vend plus d'Apple Watch que de montres horlogères dans le monde.
Voilà, Mélina d'Avansoulas, donc à Cupertino. Cette keynote qui va commencer à 20h, mais on sera sur le pont dès 19h, bien sûr, avec nos experts sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
On termine quasiment 1% de croissance sur le CAC 40.
Oui, il serait temps puisqu'on avait perdu 3,5% sur la semaine écoulée. Donc un rebond essentiellement technique. On a ramassé des titres qui étaient devenus vraiment pas chers. On signe des volumes d'ailleurs pas très importants à 2,6 milliards. Le CAC donc plus 0,99, 7 425 points. Du vert partout sur les places européennes. Et on s'est réfugié sur des valeurs, alors pour le coup très défensives. Saint-Gobain, meilleure hausse du jour à plus 2,4%, 76,84. À noter Total Energy qui se détache bien aussi, plus 1,8% à 60,96€, alors que le pétrole n'a pas fait grand chose, mais on est revenu sur le titre Total et ça a bien aidé le CAC 40. Et puis l'homme malade reste l'homme malade pour le moment, c'est Kering, moins 2,5%, plus forte baisse de l'indice, 230,30€, alors qu'on a perdu quand même 12% sur la semaine écoulée. Alors là, deux baisses de recommandations, Royal Bank of Canada et Barclays qui ont dégradé le titre, qui continue donc de s'enfoncer dans le rouge. Le CAC 40 plus 0,99, 7 425 points.
Merci beaucoup Antoine. On regarde ce qui se passe à Wall Street. C'est la mi-séance bien sûr sur le marché américain. Le Dow Jones qui s'envole d'1,4%, 40 912 points. L'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,8%, 16 830 à la mi-séance. 18h09, l'invité d'Edwige Chevrillon dans un instant, c'est l'économiste Eli Cohen, directeur de recherche au CNRS, qui est l'invité de la grande interview. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Comment enrayer le déclin de l'Europe et de la France? Super Mario a donc frappé avec son rapport. Il réclame 800 milliards d'investissements supplémentaires. Est-ce que c'est possible ou pas? Et puis la question vaut aussi pour la France. Alors que Michel Barnier, le Premier ministre, essaye de composer son gouvernement, on a le sentiment qu'il nous promet des hausses d'impôts. Oui, mais lesquelles? Bonsoir Eli Cohen.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, bien sûr, directeur de recherche au CNRS. Beaucoup de questions à voir avec vous sur l'industrie automobile, avec l'avertissement du patron de Renault, Luca De Meo. C'était samedi chez concert de France Inter. D'abord, un mot sur la croissance. Je pense que vous avez dû voir la note de l'INSEE. Je veux dire, il y a un petit peu de tout, c'est mi-chèvre, mi-chou. C'est-à-dire qu'on voit que les ménages sont un peu plus confiants, ils voient le bout du tunnel, mais que d'un côté, les entreprises, eux, vont avoir une situation qui se dégrade. Et grosso modo, la croissance, elle résiste, mais on voit bien qu'au T3, il y a un petit coup de froid. Quelle analyse faites-vous?
La première, c'est que l'économie européenne est en quasi-stagnation. Nous allons faire péniblement 1% de croissance au niveau européen. C'est beaucoup moins que ce qui se passe aux États-Unis. Ça fait déjà des années que l'écart se creuse entre l'Europe et les États-Unis. Et au sein de l'Europe, Alors vraiment, l'Allemagne est en quasi-stagnation et l'Europe fait... Et la France fait un petit 1%. Donc si vous voulez, il n'y a rien de particulièrement encourageant. Alors la question est, comment se fait-il que nous soyons dans cet état ? Alors en fait, nous avons subi un choc inflationniste qui a été particulièrement marquant, auquel la Banque centrale a réagi par une politique monétaire particulièrement restrictive et qui était probablement inadaptée. Si vous voulez, le choc inflationniste que nous avons connu, c'était dû à la hausse du pétrole, du gaz, c'était dû à la panne du Covid, et on a réagi comme s'il fallait refroidir la demande. Le problème, c'était pas qu'il fallait refroidir la demande, il fallait traiter des ruptures de chaînes d'approvisionnement, et l'arme de la politique monétaire n'est pas la plus adaptée dans ce cas-là.
Oui, mais en même temps, on voit bien que la Banque Centrale Européenne a été la première des grandes banques, notamment par rapport à la Fed, a baissé ses taux. Jeudi, tout le monde s'attend à une baisse des taux d'intérêt. Donc, elle a quand même réagi, mais pour vous, avec quand même beaucoup de train de retard.
Oui, mais elle baisse d'un quart de point, et elle ne nous a pas donné de perspective, elle ne nous a pas donné le tunnel de baisse qui nous permettrait de dire, bon, bah, ça y est, on en sort, on peut passer à autre chose. Et donc, les industriels pourraient refaire des plans d'investissement, les consommateurs pourraient estimer que les perspectives sont dégagées, l'immobilier pourrait se dire, bah, l'horizon se dégage, on va pouvoir réinvestir ce champ. Donc, on n'en est pas encore véritablement là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la note de l'INSEE, c'est que les consommateurs, pour les agents économiques, les perspectives n'apparaissent pas très claires.
La stabilité. Et puis, il y a évidemment cette instabilité politique. Alors, 50 jours sans gouvernement, voilà. Nous avons enfin, non pas un gouvernement, mais un Premier ministre.
Voilà. Effectivement, à ça s'ajoute l'instabilité politique française. Donc, si vous voulez... L'Europe a des problèmes structurels, on va y venir. L'Europe a mal géré sa conjoncture et la France a des problèmes politiques. Bon, bah, avec ça, effectivement, ça fait pas des perspectives particulièrement enthousiasmantes.
Oui. Donc, quand même, vous-même, donc assez sceptique sur notre avenir.
Non, ce que je me dis, c'est que bon, il n'y a pas de raison qu'on se punisse soi-même avec une politique monétaire restrictive. Ouais. À partir du moment où les prix de l'énergie sont maîtrisés, à partir du moment où le risque inflationniste s'éloigne, où on est sorti de la vague des hausses alimentaires, bon, il faudrait qu'on ait une politique monétaire qui favorise la demande et l'investissement.
Alors, Elie Cohen, vous êtes un économiste réputé. On vous propose demain de devenir ministre de l'Industrie, puisque vous êtes un des meilleurs experts sur l'industrie française et européenne, enfin, voire mondiale. Vous faites quoi? Lorsqu'on voit bien qu'il y aura une hausse d'impôts, parce qu'il peut pas, il faut faire des économies, 25 milliards, on n'y arrivera sans doute pas, ou 16 milliards, puis 25 milliards. Qu'est-ce que vous faites?
Ah non, c'est pas
S'il
du
côté. Il y avait une mesure à faire.
Ah non, c'est pas du côté des impôts qu'il faut regarder. Moi, je regarderais plutôt du côté du rapport Draghi, qui lui, alors pour le coup, pose le bon diagnostic. Il explique que l'Europe a lâché prise à la fois dans le numérique, dans les énergies renouvelables, dans l'industrie. Premièrement, donc on a lâché prise. Deux, il dit qu'il va falloir faire un effort d'investissement colossal. Il parle de 800 milliards d'investissements. Et puis troisièmement, il dit qu'il faut qu'on fasse cet effort en commun, nous, Européens. Il accepte de prendre le risque devant la patronne de la Commission européenne en disant qu'il va falloir que nous fassions des emprunts en commun. Donc, si vous voulez...
D'abord au niveau de la France, parce que là, on voit bien que Michel Barnier, il faut qu'il navigue entre des icebergs politiques qui sont difficilement compatibles. Donc on va voir qu'est-ce qui va sortir du chapeau, si c'est une personnalité technique ou politique. Mais si vous aviez une mesure à prendre, ou alors à l'inverse, mesure à ne pas prendre.
Non mais écoutez, c'est très simple. La France ne manque pas de plans sectoriels qui ont été...
Il y en a plein les placards.
Voilà, il y en a plein les placards. Just do it, faisons-le. Nous avons un plan pour le quantique, nous avons un plan pour les batteries, nous avons un plan pour les énergies renouvelables, nous avons un plan... Enfin bref, nous avons toute une série de plans. On a décidé des investissements à faire, des entreprises à soutenir. Faisons-le. Ce qui me frappe, moi, c'est que dans ce fameux plan industriel France 2030, quand je rencontre des acteurs, ils me disent « mais on en parle, on voit rien arriver
ouais. ».
Les procédures sont incroyablement longues, les délais d'instruction.
On en revient toujours
sont...
à ça, quoi.
Voilà.
Ouais.
Donc, faisons-le. Just do it.
Just do it. On va peut-être demander à Barack Obama de venir en France et pourrait nous dire à Just Do It, peut-être que lui, on le croira. Plus sérieusement, Super Mario, donc, il dit... Alors, il a une phrase que je trouve très intéressante et en même temps un peu flippante, si vous me permettez cette expression. Mario Draghi, nous ne pourrons pas devenir à la fois un leader des nouvelles technologies, un modèle de responsabilité climatique, un acteur indépendant sur la scène mondiale. Nous ne pourrons pas financer notre modèle social. Nous devons revoir à la baisse certaines, voire toutes nos ambitions.
Ben non, il fait référence au fait que
on veut tout faire.
Au niveau européen, on n'arrête pas d'annoncer les plans, les ambitions. Et comme vous le noterez, on veut toujours être les meilleurs dans le monde. On veut être les meilleurs en matière de maîtrise de l'énergie. On veut être les meilleurs dans le domaine... Le problème, c'est que les trains passent et on les rate les uns après les autres. Donc, si simplement on s'appliquait à mettre en œuvre, là aussi, ce qu'on appelle les PIEC, les fameux programmes d'intérêt économique européen, qu'on mette les financements en face, et comme le recommande le rapport Draghi, qu'on combine politique industrielle et politique commerciale dans une vision stratégique, par exemple, pour essayer de relancer l'automobile, qui va très mal actuellement, à la suite de la montée en puissance de la Chine et du semi-ratage électrique actuel. Donc, simplement, appliquons nos plans sectoriels, mettons les moyens en face et surtout, n'ayons pas froid aux yeux, n'ayons pas peur, par exemple, de dire à la Chine quand on n'est pas d'accord et de mettre en place les mesures correctrices nécessaires.
Oui, mais le problème, c'est qu'on n'est pas d'accord déjà entre nous. On n'est pas d'accord avec les Allemands, on n'est pas d'accord avec les Italiens, on n'est pas d'accord. Puis ça, c'est valable aussi avec d'autres couples en formation. Hein,
Alors,
le Danemark avec les Italiens, les Allemands avec.
C'est tout à fait vrai, simplement.
Et c'est toute la difficulté de l'Union européenne.
La nouveauté ne vous a pas échappé, c'est que l'Allemagne, à son tour, souffre.
Oui.
L'Allemagne, qui était le diadème industriel européen, avec au cœur l'industrie automobile, eh bien, l'Allemagne constate jour après jour, un, qu'elle perd des positions en Chine, deux, que son propre marché intérieur commence à être investi, trois, que sa domination incontestée dans les machines-outils, dans les biens d'équipement est de plus en plus contestée, et donc l'Allemagne se pose vraiment la question de la réinvention de son modèle industriel et au-delà de son modèle de développement.
Oui, et on en parlera dans un instant avec Volkswagen qui a annoncé, donc le géant automobile, c'est-à-dire la quintessence du constructeur automobile allemand, qu'il allait fermer des usines en Allemagne. Juste, est-ce que la réindustrialisation de la France et de l'Europe, c'est un vœu pieux ou pas ? Vous avez 30 secondes pour répondre.
Non, c'est pas un vœu pieux, c'est-à-dire que il y a des ambitions légitimes en matière de maîtrise de nos produits pharmaceutiques, de nos produits énergétiques. On ne peut pas découvrir un beau matin que nos approvisionnements en paracétamol sont plus possibles parce que la Chine et l'Inde contrôlent 80% des matières premières dans ce domaine-là. Et l'idée qui a été agité la semaine dernière d'un grand laboratoire pharmaceutique français qui voulait vendre sa filiale de produits génériques, c'est quelque chose qui ne doit plus être acceptable et qui ne doit plus être accepté.
Oui, oui. on voit bien toute la difficulté, surtout qu'en fait, que ça soit au niveau européen, soit au niveau français, on a l'impression qu'il y a une toile d'araignée qui est disposée par les politiques, les technocrates, alors je ne vais pas faire du poujadisme, bien sûr, mais que du coup, les normes réglementaires sont telles que du coup, les entreprises sont emprisonnées là-dedans.
C'est tout l'enjeu de ce rapport Draghi qui montre bien quelles sont toutes les failles dans le modèle de compétitivité européen, pluralité d'ambition, insuffisamment financé, absence d'un véritable marché européen, absence de sources de financement, nécessité d'articuler différentes politiques qui sont menées de manière séparée et nécessité de mise en œuvre d'une ambition commune.
On va l'illustrer tout de suite avec les propos de Luca De Meo, donc, qui est le patron de Renault, mais qui est aussi le président de l'Association des constructeurs européens. Il a dit, on voit que les voitures électriques, le ralentissement des ventes est quand même assez impressionnant, moins 12,5%. Il dit que du coup, comme on ne pourra pas respecter les normes en 2025, alors je ne parle même pas de 2030 et 2040, il dit, du coup, on va nous, constructeurs automobiles, il faudra qu'on paye 12 milliards, 15 milliards même d'amende si on ne respecte pas les règles fixées par l'Union européenne.
Ben, vous voyez bien.
Mais en même temps, comment faire, quoi? Ben, si les gens ne veulent pas acheter, ben, ils n'achètent pas.
Vous voyez bien, sur l'automobile, on marche sur la tête. On fixe un objectif très ambitieux. Oui. 2035, on ne vend plus de moteurs, de véhicules à moteur thermique. Tout doit être électrique. Donc les industriels se disent, il va falloir qu'on se cadre là-dessus. Donc ils décident d'investir massivement dans l'électrique. Ils dépensent des sommes formidables. Le problème, c'est que les prix des véhicules automobiles électriques restent trop élevés. Donc les gens n'achètent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence par mettre des subventions. Vous vous souvenez de la fameuse voiture à 100 euros par mois?
Ah oui.
Donc, simplement, on sous-dimensionne l'effort et à peine le marché commence à démarrer qu'on coupe les vivres.
Ah oui.
Parce qu'on a des problèmes budgétaires. Donc les industriels se disent, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Pendant ce temps-là, le plan de déploiement des batteries, des machines de recharge, etc., prend du retard. Donc les véhicules, les pionniers de l'électrique découvrent les pannes sur autoroute, etc. Donc ça devient rapidement cauchemardesque. Et puis ça se sait. Tout ça se sait. Donc, résultat pratique, les gens se disent, bon, on va moins acheter de véhicules électriques et du coup le véhicule hybride qui devait représenter une simple transition redevient la priorité. Donc les industriels qui avaient commencé à abandonner l'hybride reviennent en courant en disant mais non, c'est dans l'hybride qu'il faut qu'on réinvestisse. Vous comprenez, c'est pas possible. Dans des secteurs où vous avez besoin d'une vision très longue, cette multiplication de mesures est quelque chose de très troublant. Et ajoutez à ça que l'Europe déroule sa machine et donc avait fixé des objectifs de réduction d'émissions que les industriels ne peuvent pas tenir. Et du coup, ils vont recevoir des pénalités. Mais on est chez les fous, là.
Ouais.
Donc je comprends que les industriels disent « halte là, halte là ».
Le problème, c'est que je m'en souviens déjà, Carlos Tavares, le patron de Stellantis, il m'avait dit, c'était il y a deux ans, au salon de l'auto, il m'avait dit, mais l'Europe marche sur la tête. Et ça avait fait, du reste, ça avait fait un barouf. On a dit, comment il se peut permettre de dire ça? Mais en réalité, il a assez raison. Lorsqu'on
mais non, c'est pas que l'Europe marche sur la tête, c'est que l'Europe fixe des objectifs à moyen long terme, elle fixe des objectifs intermédiaires, les acteurs suivent plus ou moins bien. Mais comme il y a une multitude d'États, les régimes incitatifs varient d'un État à l'autre. On retire des régimes incitatifs avant même que les industriels en aient véritablement profité. Et donc, du coup, les consommateurs votent avec leurs pieds.
Et tiens, du reste, Volkswagen, on en parlait, Eli Cohen, il y a quelques instants. Volkswagen qui est dit fermer des usines en Allemagne. C'est quand même un signal, enfin, je veux dire, c'est pas rien, quoi.
Ça, c'est le résultat, si vous voulez, de deux choses. La première, c'est que la machine à exportation allemande n'est plus ce qu'elle était. Ouais. Souvenez-vous que les Mercedes, etc., le débouché essentiel, c'était la Chine. Or, la Chine a accéléré son passage à l'électrique. Donc, du coup, achète moins de thermique et donc achète moins de belles voitures allemandes. Donc, si vous voulez, c'est la double peine. Les Allemands exportent moins de véhicules thermiques et ils reçoivent les Chinois comme concurrents chez eux pour l'électrique, alors même qu'ils n'ont pas achevé leur transition électrique. Donc, dans ce contexte-là, Volkswagen est obligé de fermer des usines qui ne produisent plus suffisamment. Il y a deux usines en particulier qui vont fermer et elle sera suivie par les autres.
Oui, mais il faut dire qu'aussi, si vous prenez tous les équipementiers, ils travaillent, ou même Stellantis, ils travaillent avec les Chinois.
Donc, ben oui. Alors j'ajoute une dernière couche, c'est que certains industriels européens ont cru intelligent de faire des partenariats avec les Chinois pour servir le marché européen au moment où les Européens augmentent leurs taxes et donc vont priver des voitures mi-européennes, mi-chinoises d'un accès privilégié au marché européen.
On voit qu'il y a la question, ça commence à tourner un peu. Est-ce qu'il faut supprimer la taxe carbone? Est-ce que vous êtes pour ou contre la taxe carbone?
Ah, moi je suis tout à fait pour la taxe carbone.
Pour?
Ah ben oui, je suis pour la taxe carbone.
C'est
le véhicule essentiel pour internaliser la contrainte climatique dans les décisions économiques quotidiennes. Si vous n'introduisez pas le prix du carbone dans le prix des biens que vous consommez, comment allez-vous arbitrer entre biens très carbonés et biens non carbonés? C'est une nécessité, même si c'est très impopulaire.
Eli Cohen, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question sur les hausses d'impôts, savoir lesquelles il fallait. Du coup, je vais vous poser une question un peu plus directe. L'ISF vert pour financer la transition écologique, vous êtes pour ou vous êtes contre?
Je suis contre.
Pourquoi? Sinon,
écoutez,
vous trouvez où les 60 milliards?
J'en ai débattu beaucoup avec mon ami Jean Pisani-Ferry. Oui. C'est lui qui a lancé l'idée de l'ISF vert. Et alors, dans l'idée de Jean Pisani-Ferry, c'est une mesure provisoire, transitoire. C'est une mesure qui ne devrait toucher que les très hauts revenus. Je vais vous faire un aveu, on n'a jamais su faire ça en France.
Oui, c'est sûr. Oui.
Voilà, les mesures transitoires.
Parce que Michel Barnier dit qu'il faut un choc, il faut des ruptures. Voilà. On peut
les mesures transitoires sont pérennes. Mmh. Donc, souvenez-vous de la surtaxe Fillon qui était provisoire et qu'on n'a jamais retirée. Bon, s'attaquer au très haut patrimoine, donc dans l'esprit de Jean Pisani-Ferry, c'est à la suite de Zucman, c'est au-delà de 10 millions
Gabriel
d'euros.
Zucman, ouais.
Voilà, c'est au-delà de 10 millions d'euros. Ça ne sera jamais 10 millions d'euros en France parce qu'on estimera que le rendement est insuffisant. Pour Jean Pisani, on fait ça une fois et puis après c'est fini, et donc ça ne sera pas le cas non plus. Donc je ne veux pas qu'on s'engage dans cette procédure et qu'on croit au miracle de l'ISF vert.
Et est-ce que vous croyez au miracle de la TVA sociale qui pourrait permettre, c'est une manière de répartir, d'avoir une assiette beaucoup plus large et toucher les touristes, toucher voilà, tous les étrangers
moi,
qui viennent.
Je constate que la protection sociale est de moins en moins contributive et de plus en plus socialisée.
Oui.
Et donc la TVA sociale, ce sera une étape supplémentaire dans ce processus de socialisation de la protection sociale.
Et ça sera une vraie décision à prendre. Quand même.
Absolument.
En tous les cas, il faudra l'assumer. Merci beaucoup.
Merci également.
D'avoir été avec nous, directeur des recherches au CNRS, qui ne compte pas du tout être nommé ministre de l'Industrie. merci d'avoir été avec nous tout de suite. Guillaume Paul nous apporte justement toute l'info, notamment on va revenir sur Super Mario et sur l'INSEE.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, les experts sont là. La première partie jusqu'à 19h pour décrypter ensemble l'actualité économique. Bien sûr, Edwige Chevrillon, revenu. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume.
Frédéric Simotel, bonsoir. On va parler d'Apple, l'événement. Hein, Tech&Co spécial à partir de 20h, évidemment, sur BFM Exactement. Business.
Bonsoir Guillaume.
Oui. Emmanuel Le Chypre est avec nous. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Et Thomas Asportas qui est avec nous. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Qui est avec nous, qui
la
arrive
est
parce
avec
que.
Nous aussi.
Oui. Et qui a du neuf, parce que, oui, alors vous savez, on était resté sur l'idée de ces déficits qui dérapaient. Ouais. 5,6%, 5,6% d'ici la fin de l'année, disaient des notes, c'était la crainte. Et savez-vous quoi, Bruno Le Maire vient d'être auditionné à l'Assemblée aux côtés de Thomas Cazeneuve. Il a dit si les 5,1 initialement prévus, on peut les tenir.
Voilà. Donc, il faut avoir en tête que c'est quand même la dernière audition de Bruno Le Maire à la Commission des Finances. Hein. Là, c'est la dernière. Il en aura fait 35. Et là, c'est la dernière fois qu'il rendait compte, justement, devant la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Et l'objet de cette audition, c'est exclusivement les comptes 2024. Où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va tenir l'objectif qui est déjà pas glorieux des 5,1% ou est-ce que ça va complètement déraper et aller vers ces 5,6% évoqués par les services même de Bercy ? Bruno Le Maire répond qu'on peut tenir cet objectif des 5,1%, que c'est possible. L'objectif qui a été fixé avant la dissolution, c'est de faire cette année 25 milliards d'euros d'économies pour ces 5,1%. Pourquoi on doit faire autant ? Parce que, je ne vais pas vous refaire tout le film, mais en gros, les comptes ont complètement dérapé fin 2023 de plus de 20 milliards. Et donc, en gros, il faut les compenser par à peu près autant d'économies cette année. Pour faire ces 25 milliards, Bruno Le Maire dit il y a trois choses à faire, on en a déjà fait deux. Il y a 5 milliards d'euros qui vient du fait qu'on relève la TICFE, la taxe sur les prix de l'électricité. Le bouclier tarifaire, ça avait consisté à baisser cette taxe à zéro. Le prix normal, c'est 32 euros le mégawatt-heure. On l'a baissé à zéro et en début d'année, on l'a relevé à 21. On a fait les deux tiers du chemin pour revenir à la normale. Ça, ça a rapporté 5 milliards. Ensuite, il y a 10 milliards d'euros. Vous vous souvenez, Bruno Le Maire avait annoncé ça aux 20h de TF1. C'était le 19 février. Donc, ça nous fait déjà 15 milliards sur les 25. Et il en reste 10. Et sur ces 10, Bruno Le Maire dit, ben moi, j'en ai 20 à vous proposer à portée de main. Vous n'avez plus qu'à les activer. On a gelé 17 milliards d'euros de crédit en juillet avec Thomas Cazeneuve. Et on a par ailleurs sur la table 3 milliards d'euros de recettes supplémentaires en taxant les énergéticiens. Ça, c'est la taxe sur les rentes inframarginales.
Oui.
Et en taxant les rachats d'actions.
Oui.
Mais ça, pour le faire, il faut faire un projet de loi rectificatif. Vous vous en souvenez, Bruno Le Maire voulait le faire au printemps.
Oui.
Emmanuel Macron ne voulait absolument pas, parce que justement, c'était à ce moment-là le premier risque de censure du gouvernement. Mais donc, si vous prenez les 17 milliards d'euros gelés cet été et les 3 milliards de taxes sur les énergéticiens et les rachats d'actions, ça fait 20 milliards. Et il faudrait piocher 10 milliards sur ces 20 milliards.
Bon.
Enfin, là, je vous fais un peu des chiffres et des lettres, mais donc si on a ces 10 milliards, plus les 5 milliards sur l'électricité, plus les 10 milliards pris en février, ça fait 25 milliards d'économies.
Ouais.
Avec ces 25 milliards d'économies, on tient les 5. Hein.
Bon,
et donc, conclusion, nous pouvons tenir les 5, c'est uniquement une question de choix politique.
Avis aux amateurs et aux successeurs, c'est ça que ça veut dire.
Exactement.
Finalement,
oui, ça, c'est clair. Non, c'est juste un petit clin d'œil quand même, c'est qu'avec Emmanuel Macron, on est toujours dans le livre Guinness des records, hein, c'est-à-dire 50 jours jours sans gouvernement, ça n'a jamais été fait. Elisabeth Borne qui dépasse Edith Cresson dans la, sa longévité à Matignon. Oui. Partout, il y a un côté boucle des records. Et là, Bruno Le Maire, donc une longévité à Bercy n'a jamais été égalée. Ouais. Et puis 35 auditions à la présence de la commission des finances, à la commission des finances. Plus sérieusement, ce qui est même assez frappant, c'est que il dit qu'on peut le faire. J'ai juste envie de dire pourquoi il l'a pas fait avant. Il aurait pu le faire avant, non, même Bruno Le Maire. Il aurait pu trouver ses économies avant.
Ouais, c'est faux. Enfin, ils ont trouvé.
Oui, il a pu le faire avant.
Ils ont fait 5 milliards en janvier, en 10 milliards en février.
Oui, mais pourquoi il l'a pas fait?
Et alors, à partir d'avril, non, mais c'est 10 milliards, en gros, le deal qui avait été fait, les 10 derniers milliards restants, c'est que l'État allait faire 5 milliards supplémentaires. Il y avait les 3 milliards qui venaient de la taxe sur les rachats d'actions, et il y avait encore 2 milliards qui venaient des collectivités. Et en fait, la dissolution, après, arrivait très vite et a tout bloqué.
Oui, mais pourquoi il n'a pas fait ça en 2023? Alors, 2022, c'était peut-être un peu compliqué. Vous voyez pourquoi?
Là, c'est autre chose. Là, c'est des économies d'urgence. Non, mais là, c'est des économies d'urgence. Je suis d'accord. Les économies structurelles n'ont jamais été faites.
Puisqu'il arrive à trouver beaucoup des 20 milliards d'économies, pourquoi il ne l'a pas fait avant?
Non, mais le péché originel.
Parce qu'avant, on n'avait pas ce mur d'urgence, en gros. C'est vrai qu'ils ont attendu le dernier moment.
Le péché originel, c'est ces baisses de rentrée fiscale qu'on n'a pas vues sur la fin 2023, début finalement, d'un mot.
Ouais, il y a quand même un vrai sujet aussi, enfin qui devient inquiétant sur autour de l'expertise budgétaire. C'est-à-dire que ça fait quand même beaucoup de choses qu'on n'a pas vu venir depuis 2-3 ans. Ça fait quand même beaucoup de choses sur lesquelles ce gouvernement est pris au dépourvu. Or, s'il y a bien quelque chose qu'on pouvait anticiper, mais alors c'est sûr que ça a été les œillères complètes sur la crise de l'immobilier. C'est-à-dire que c'est quelque chose que personne n'a voulu voir, que personne n'a voulu traiter. Et après, on s'étonne qu'effectivement, à cause de la baisse des recettes liées à l'immobilier, les rentrées fiscales dérapent. Je rappelle quand même qu'un logement neuf, c'est 50 000 euros de rentrée fiscale. Mmh. Voilà. Donc, oui, moi, j'ai quand même un souci avec ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu
l'expertise,
quand même, des gouvernements se planter autant. Est-ce que la direction de la prévision, ils sont devenus mauvais? Est-ce qu'au budget, ils sont devenus mauvais? C'est sûr qu'ils sont moins bons qu'avant. Ça, c'est très clair. Parce que les gens qui y sont moins bons que les gens qui étaient là avant. Et ça pose quand même un sujet. Comme les gens qui sont là sont moins bons pour faire les lois. Et regardez tous les problèmes qu'on a avec les textes de loi mal ficelés, mal élaborés, etc. Et oui, tout ça, ça pose des problème. Donc il y a un sujet d'expertise globale. Et après, il y a effectivement... alors Bruno Le Maire dit c'est facile. Enfin, c'est facile de geler des crédits, mais en même temps, c'est pas la bonne méthode. C'est-à-dire que vous tapez de façon indifférenciée sur, finalement, peut-être que ces crédits, ils avaient des très bonnes raisons d'être dépensés. Alors on va voir, évidemment, Michel Barnier, il arrive avec des intentions bien plus nobles, qui sont les intentions de rationalisation. C'est ce qu'il a dit à l'hôpital ce week-end. Il a dit, on va pas dépenser plus, mais on va dépenser mieux. Ça, c'est un slogan qu'on entend depuis très longtemps, qu'on n'a pas vraiment vu encore être mis à l'œuvre, alors que, encore une fois, il y a quand même des postes qui sont extrêmement bien identifiés. Je vous rappelle qu'on sait qu'il y a 20 à 30% des actes médicaux qui sont réalisés, qui sont des actes inutiles, qu'il y a 3 à 4 milliards d'euros par an
de la cartographie
de médicaments
des différents
qui sont gaspillés.
Il fait les pistes d'économie, là.
Il y a des vraies économies à aller chercher.
Bon. On va aller donner crédit à Bruno Le Maire, qui ne pouvait pas faire autre chose que de préparer ses arrières, que de préparer sa sortie. Enfin, on comprend bien un petit peu.
Ça y est, c'est sa sortie, ça, c'est clair. Ouais. Oui.
Bien. Est-ce grave, docteur, ou pas, Emmanuel? Est-ce qu'on redit un petit mot de ce que nous a dit l'INSEE tout à l'heure, note de conjoncture de l'INSEE qui est tombée aux alentours de 17h, qui nous dit, bon, sur l'ensemble de l'année 2024, on ne change pas de scénario, on fera 1,1% de croissance. Malgré un petit coup de frais au troisième trimestre, on devait faire 0,5, on devait faire 0,4. Et puis alors surtout, un match, un arbitrage, des bonnes choses du côté de la consommation des ménages, des bonnes perspectives. Par contre, des choses beaucoup moins bonnes du côté de l'investissement des entreprises.
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression...
L'un dans l'autre, qu'est-ce qui l'emporte finalement?
On a l'impression qu'on est sur un trend de croissance qui finalement ne bouge pas. Mais ce qui est quand même effectivement marquant, c'est que, alors que depuis plusieurs années, on avait quand même une consommation qui était un peu en retrait et de l'investissement des entreprises qui était plutôt ferme et qui était plutôt dynamique, là, on bascule, on change un peu de moteur avec un investissement qui serait un peu moins dynamique et puis de la consommation des ménages qui retrouverait un peu de couleur parce que un peu de pouvoir d'achat. Donc on va bien voir ce que donne ce match. L'INSEE dit pour le moment c'est plutôt un match nul. Moi j'ai quand même l'impression que les aléas sont plutôt positives sont plutôt à la hausse, c'est-à-dire que vous vous dites la baisse des taux d'intérêt va quand même finir par produire des effets, ça c'est sûr. Les exportations, on se dit qu'elles peuvent plutôt tirer dans le bon sens, alors même s'il y a des choses à craindre, peut-être du côté de l'élection américaine, sur tout ce qui est agroalimentaire, etc., s'il y a des sanctions contre, par exemple, ce qui est décidé sur l'automobile, etc., on verra. Mais pour le moment, par exemple, les carnets de commandes des constructeurs aéronautiques sont bourrés de chez bourrés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a des bonnes nouvelles quand même, et ça, l'INSEE, par convention, ne le prend jamais en compte sur les prix de l'énergie. Dans ses prévisions, gèle les prix de l'énergie. Or, on est en train d'avoir plutôt des bonnes nouvelles sur les prix du pétrole, gaz, électricité, etc. Donc ça, c'est voilà. Donc on peut se dire que finalement, c'est 1,1%. C'est le scénario presque pessimiste, et que ça permet de rentrer dans 2025 quand même pas complètement tout nu.
On reste à 1,1% sur 2024. Ça n'avait pas l'air d'enthousiasmer Lee Cohen tout à l'heure.
Non, parce que ce qu'il disait, c'est que bon, il y a eu un petit effet géo, mais pas beaucoup. Ouais. Et surtout, c'est que cette instabilité politique, elle finit par peser sur les chefs d'entreprise qui, eux-mêmes, n'ont pas des perspectives claires. Or, c'est tout ce que déteste un chef d'entreprise. Déjà qu'il y a des risques géopolitiques, on en parle très souvent ici, où on voit bien que c'est très compliqué, il faut tout revoir. Il y a en plus l'intelligence artificielle qui est en train de changer tout leur modèle, leur propre modèle. Donc, ils sont obligés aussi de réorganiser leur logiciel. Et puis, en plus, il y a cette instabilité. Donc là, c'est sûr que les anticipations, elles sont mauvaises pour les chefs d'entreprise.
Thomas.
Globalement, on peut se dire qu'on va finir 2024 à peu près correctement.
Oui.
Un peu au-dessus des 1%. Ça se finit pas si mal. Le troisième trimestre, il y a quand même eu un effet JO. Clair et net, quoi. C'est-à-dire qu'on devait faire 0,5, on va faire 0,4. C'est une affaire d'arrondi. C'est-à-dire que dans la dernière prévision, on était à 0,46. On a dit, 0,5. Et là, on est à 0,44, ça fait 0,4. Mais en gros, il y a de l'activité au troisième trimestre. Un contre-coup, on est à moins 0,1, c'est mécanique en fin d'année. Mais en gros, on va faire des 1%. Par contre, il y a un flou absolu, incertitude totale. Donc politique, les choix qui vont être faits. Et donc sur 2025, effectivement, tous les chefs d'entreprise se demandent à quoi va ressembler l'année prochaine.
Juste les taux d'intérêt qui vont baisser, mais ça ne va pas diffuser assez vite. Oui. Pas d'ici la fin de l'année.
Ça, c'est un point important. Oui.
Ce que disait Lee Cohen, c'est d'avoir effectivement très critique vis-à-vis la Banque Centrale Européenne, en disant, d'accord, il y avait de l'inflation, mais enfin, il n'y a pas quoi avoir cette politique restrictive. Là, ça arrive un peu tard. Mais surtout, c'est qu'il dit, voilà, on dit cocorico, on fait 1,1% de croissance. Enfin, ouais, il suffit. Et même au niveau européen, je veux dire, on regarde la croissance américaine, on regarde
la croissance potentielle. L'Europe justement, Mario Draghi, qui veut sortir l'Europe de sa torpeur, ce rapport qui est sorti aujourd'hui, qui a beaucoup fait causer. Comment rendre l'Europe plus compétitive? Il dit qu'il faut plus de productivité, il faut plus d'investissement dans bien des domaines, et pour ça, il faut emprunter en commun. Écoutez Mario Draghi aujourd'hui.
Un financement en commun sera nécessaire pour des projets clés. Ce sera nécessaire pour les réseaux, ce sera nécessaire pour les innovations de rupture. Et faire un financement en commun pose la grande question, qui ne prend pas beaucoup de place dans le rapport, parce que c'est seulement une question d'instrument pour atteindre l'objectif. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il faut un grand emprunt en commun ? Oui. La réponse est oui, on a besoin d'un financement en commun, et cela passe par une dette en commun.
Lui sait à quel point c'est infaisable.
Oui, alors moi j'ai une phrase, je répète toujours cette phrase-là depuis tout à l'heure, quand il dit « Nous ne pourrons pas devenir à la fois un leader de nouvelles technologies, un modèle de responsabilité climatique, un acteur indépendant sur la scène mondiale, nous ne pourrons pas financer notre modèle social, nous devrons revoir à la baisse certaines, voire toutes nos ambitions. »
S'il n'y a pas l'argent. Si on ne finance pas, effectivement, on ne pourra plus tout faire.
800 milliards d'euros d'investissement en plus tous les ans pour rester dans la course en passant par le grand emprunt en commun.
Il y a
quand
déjà
on voit
les pièques, les machins, les trucs.
Dans quelles conditions était difficile de faire venir les Allemands au plan de relance post-Covid, mais comment est-ce qu'on va pouvoir briser ce tabou, Emmanuel?
Honnêtement, c'est quand même le rapport le plus lucide qu'on ait vu sur la situation de l'Europe depuis 30 ans.
Il va loin.
Il faut être très clair. C'est-à-dire que rappelez-vous les discussions qu'on a ici quand on dit l'Europe, c'est toujours trop peu, trop tard, trop compliqué, trop éparpillé. Bah là, Mario Draghi, il dit il faut faire plus vite, il faut faire plus efficace, il faut faire beaucoup plus et il faut faire au niveau européen. Donc oui, effectivement, il fait le bon diagnostic avec tout ce que ça sous-entend, c'est-à-dire que marché européen des capitaux, enfin, qu'on attend depuis des années, et là, effectivement, il met le nez sur ce qu'on n'ose pas faire, et puis très important, c'est ce que disait Edwige, c'est-à-dire que c'est une Europe qui a perdu sa lucidité au point d'avoir des ambitions qui ne sont plus à sa portée. C'est-à-dire qu'avec des ambitions de développement durable, etc., qui font fi de la première condition qu'il faut remplir pour pouvoir les atteindre, c'est-à-dire faire de la productivité, faire de la croissance.
De productivité,
qu'on a mis, ça fait 30 ans que, parce qu'on n'est pas lucide sur notre force réelle, qu'on la surestime, qu'on a des ambitions démesurées, qu'on n'est pas capable de tenir. Ouais. Et ça, moi, ce message sur on a mis la charrue avant les bœufs, sur tout ce qui est environnement, etc., etc., c'est quand même un message qui est extrêmement puissant.
C'est le cas des méo ce week-end.
C'est Draghi qui a quelqu'un. Le message de Luca de Meo ce week-end était dingue.
On va revenir dans un instant. Il a laissé du temps aux États, Mario Draghi. Il a dit allez-y, investissez, voilà, en baissant en maintenant des taux d'intérêt très très bas.
Juste le marché européen des capitaux, c'est quoi, qui avait essayé de le faire? Michel Barnier, lorsqu'il était commissaire européen en charge des services financiers, et il s'était pris un barrage, notamment des banques françaises.
Sauf que là, dans la dernière visite d'État d'Emmanuel Macron en Allemagne, on avait quand même eu un accord politique.
Oui.
Tout était parti de là, dans la dette en commun, un accord Macron-Merkel. Là, on avait un accord Macron-Scholz pour faire ce marché de capitaux.
Voilà sur ce rapport de...
Juste qu'on sache quand même de quoi on parle. Hein. Donc, 800 milliards d'euros, c'est 5 points de PIB européens.
Oui.
5 points de PIB quand même. Et c'est l'équivalent du plan de relance européen qu'on n'avait jamais vu, sauf que là, il faudrait faire ça tous les ans. Donc ça donne quand même une ampleur de la tâche qui nous attend.
Il faut rappeler que pendant 20 ans, l'Allemagne a mis 4 à 5 points de son PIB pour financer la réunification allemande et que ça n'a même pas dégradé ses comptes publics, qu'ils ont réussi.
Ça a dégradé sa situation politique.
Et que ce que dit aussi le message très fort de Draghi, c'est de dire, attendez, si jamais l'Europe décroche, ce sera pas la faute des Chinois, ce sera pas la faute des Américains, ce sera notre faute à nous.
Ben c'est vrai.
Et voilà pour l'Europe qui veut sortir de sa torpeur. Pendant ce temps, pendant que l'Europe se regarde, s'interroge, keynote d'Apple qui débute à 20h, émission spéciale avec François Sorel, Frédéric Simotel qui est avec nous. Rebonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On attend l'iPhone 16, on attend, alors je cite le titre de l'agence France Presse, les premières gammes d'iPhone infusées à l'intelligence artificielle générative. J'aime beaucoup l'expression. Est-ce qu'on dit quoi? Que c'est une année charnière pour Apple ou pas, quelque part?
Chez Apple, on dit it's glow time, hein, c'est l'heure de briller. C'est d'ailleurs dans la conférence, elle démarre à 19h. Hein, à 20h, on commencera les commentaires sur Tech & Co. C'est une année charnière. Chaque conférence. Alors, il faut savoir qu'Apple, en général, a deux grandes conférences dans l'année. Une plutôt sur la partie logicielle, une plutôt sur la partie matérielle. On est sur celle plutôt matérielle. Donc, on devrait des annonces autour de l'iPhone, de l'iWatch. On parle aussi des casques, des AirPods. Peut-être, vous savez, Apple avait aussi sorti une version d'un casque audio. Eh bien, il y aurait cette nouvelle version d'un casque audio. Enfin, voilà, ça, c'est pour la partie matérielle. Mais ce qui va être important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire l'Apple Intelligence qui a été présentée lors de la conférence où on parlait davantage logiciel. Pourquoi? Parce qu'on attend beaucoup d'Apple. Aujourd'hui, on entend beaucoup Microsoft via OpenAI ou via Microsoft tout seul. On entend beaucoup Google Gemini, on entend Elon Musk, on entend Amazon. Mais on n'entend pas beaucoup Apple. Donc, il y a ce retard. Si on entend Apple, quand Apple dit, nous, on a signé avec OpenAI. On a fait venir OpenAI dans notre pour l'IA générative, hein, parce qu'il y a de l'IA, ils en font déjà beaucoup, mais pour l'IA générative, on les a peu entendus, sinon qu'ils ont signé avec OpenAI. On s'est dit qu'ils avaient pris pas mal de retard. On sait qu'à l'intérieur de chez Apple, il y a eu des bagarres un peu entre les grands chefs vers quelle destination il fallait aller sur cette IA générative. Est-ce qu'il fallait l'intégrer dans l'iPhone? Est-ce qu'il fallait que ce soit une plateforme puis qui devait servir un peu à tous les éléments chez Apple? Voilà, donc on va surtout regarder ça, parce qu'après l'iPhone 16, oui, c'est un marqueur. Hein.
Esthétiquement, il n'y aura pas de différence.
Les années où ils en vendent le moins, ils en vendent quand même 200 millions. Oui. Ça reste plus de 50% de leur chiffre d'affaires, une marge considérable, un appareil vendu très cher. On va avoir peut-être un petit bouton sur la photo, on aura une meilleure photo.
La seule question, c'est combien, ça va coûter? Combien va coûter l'iPhone 16?
Il va coûter toujours 1 000
Pas plus que l'inflation.
Voilà. 1200, 300,
ouais. Entre 1200 et 1600 selon la version. Il y aura une autonomie sans doute aussi un peu amélioré, parce que c'est ce qu'on attend. Il y aura sans doute, parce qu'on va fêter les 10 ans de la Watch. On sait qu'Apple a vraiment créé ce marché de la montre. Aujourd'hui, sont les premiers vendeurs de montres au monde.
C'est incroyable.
Il faut savoir. Hein. C'est
incroyable.
Quand même, ils étaient partis de rien. Ils avaient tout leur partie logicielle et matérielle. Donc, on devrait avoir une nouvelle version de la Watch avec davantage de fonctions sur la santé. On sait qu'aujourd'hui, Apple cible beaucoup la santé à travers cette montre. Alors, on parle de peut-être pression artérielle, vous imaginez? La pression artérielle, la difficulté technologique là-dessus. On parle de, bon, là, si on la garde la nuit, on aura l'apnée du sommeil. Enfin, il y a plein de choses qui sont envisagées autour de tout ça. Et puis les casques qui pourraient peut-être ravir la vedette, hein, un peu à l'iPhone 16, parce que si l'iPhone 16, on dit, bon, finalement, c'est le même, un peu amélioré. bon, voilà. Mais voilà, à l'intérieur, c'est cette intelligence Apple, alors que malheureusement, nous, on ne verra pas. Puisque vous savez,
pas pour l'instant.
Ouais. Ben pas pour l'instant. Pour l'instant, Apple réserve cette intelligence artificielle aux Américains. Oui. Elle ne veut pas l'introduire en Europe parce que d'un point de vue réglementaire, elle aurait tout un tas de conditions à remplir. Et aujourd'hui, Apple ne le veut pas. Apple est déjà en train de régler des choses au niveau de la Commission européenne. Pareil en Asie. Donc c'est quand même un risque parce qu'on sait que l'iPhone aujourd'hui est en train de perdre des parts de marché en Asie et notamment en Chine, qui est un gros marché pour Apple. Donc voilà, il y a quand même quelques enjeux en
filigrane. Si on l'achète aux États-Unis et qu'on le ramène
en France... Oui, c'est la question que je voulais poser, Bernard.
Non, carrément. D'accord. Avis aux amateurs qui seraient...
Dès qu'on passe ici sur un réseau européen...
Ouais. Ça bloque.
Ça bloque, évidemment. Bon, ce qui bloque pas en tout cas, c'était l'édition spéciale à partir de 20h, bien sûr, Tech & Co. Dès 19h, on commentera d'ailleurs ici avec nos experts les annonces qui commenceront à filtrer via émission spéciale 20h Tech & Co.
Ça donne raison à Super Mario.
Absolument. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous laisse repartir parce qu'on va accueillir Julien Bonnet qui va prendre votre place tout de suite, 18h54, vue sur le web. Comme tous les soirs, un article du web de bfmbusiness.com que nous avons voulu mettre en avant. C'est Julien Bonnet qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Julien.
Bonsoir.
Bienvenue. Gros salaire, donc on en parlait, lancé samedi par le DG de Renault, Luca De Meo, qui nous dit que les constructeurs auto européens sont menacés en cumulé de...
président de l'Association des constructeurs européens.
C'est bien de le préciser. Il dit que les constructeurs auto européens, précisément, sont menacés de 15 milliards d'euros d'amende pour non-respect des normes CO2. Que se passe-t-il, Julien, exactement?
Ah oui, c'est un problème qui concerne donc Renault, mais également l'ensemble des constructeurs européens que représente Luca De Meo à travers cette association, la CEA, donc le lobby des constructeurs européens. Il a tenu à rappeler en fait le contexte actuel. En résumé, tout le monde aujourd'hui a les yeux rivés sur 2035 avec cette interdiction des ventes de voitures thermiques dans l'Union européenne. Mais en fait, il y a un danger pour lui à plus court terme. Hein. C'est tout simplement dès l'an prochain avec des normes de CO2 plus sévères. Alors, pour rappeler, hein, chaque année, les constructeurs, ils doivent en effet respecter un certain niveau moyen d'émission de CO2 dans leur vente de voitures neuves, bien sûr. Si cette moyenne, elle est supérieure à la norme, ils doivent payer des amendes, pardon.
Oui.
Ce sont les fameux 15 milliards d'euros hein, qu'a évoqué Luca De Meo et donc qui s'appliqueraient à l'ensemble des constructeurs qui dépasseraient ces normes. Et en fait, avant d'arriver à 0 gramme de CO2, donc l'objectif 2035, il y a une étape qui est très importante l'année prochaine, on passera quand même de 95 grammes par kilomètre à 81.
C'est une conséquence, bien sûr, de la méforme des ventes d'électriques en Europe, ça, Julien.
Hein. Complètement, hein, c'est ce qu'on voit depuis le début de l'année. Il y a un ralentissement des ventes en Europe et puis, bah, tout bêtement, en fait, une voiture électrique, c'est 0 gramme par kilomètre et donc ça fait considérablement baisser la moyenne pour ces constructeurs. Et Luca De Meo, il a particulièrement bien résumé l'enjeu. Pour lui, en fait, un véhicule électrique, ça permet de compenser 4 voitures thermiques. Donc si vous vendez moins de voitures électriques, forcément c'est d'autant plus de voitures thermiques que vous pourrez pas vendre. Et lui, il a évalué ça à 2,5 millions de voitures en moins que les constructeurs européens devraient ne pas produire, justement pour éviter l'amende.
Sachant qu'ils s'en vendent à peu près 13 millions par an.
Voilà, c'est ça exactement.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est quand même une partie considérable.
Et ça nous amène à un autre problème finalement, c'est que moins de ventes, c'est aussi moins de profits. Et on voit avec ce qui se passe avec Volkswagen, la grave crise qui secoue le constructeur allemand.
Oui. Voilà, et l'hybride qui devait être vraiment le petit passage là, finalement, c'était juste entre le thermique et l'électrique.
L'hybride,
là. Finalement, tout le monde achète
désormais.
Des hybrides.
Oh, ouais, désormais.
C'est la planche de salut.
C'est la planche de salut.
Ça se voit dans les derniers chiffres, même.
Ouais, absolument. Europe,
mais ça va être compliqué parce que je regardais une Clio hybride aujourd'hui, c'est 95 grammes par kilomètre. C'est l'ancienne norme. Et là, on va rebaisser encore l'année prochaine. Donc l'hybride sera largement pas suffisant.
Ah oui, donc l'hybride, ça résout pas le problème. Ça fait pas baisser la moyenne.
Non, mais ça résout le problème des Français, des consommateurs, des acheteurs de voitures.
Oui, mais ça veut dire que du coup. Parce que le choix en gros c'est soit on baisse la production de voitures, soit on paye des taxes.
Donc ça va être
alors que les États, rappelons-le, ont quand même réduit leurs subventions, notamment l'Allemagne, à l'achat de voitures électriques. Donc vous voyez le cercle vicieux.
Ah mais c'est un cercle incroyable, c'est infernal.
C'est pour ça que c'est l'Allemagne et la France, si je puis dire.
Et la France, et c'est bien pour ça que l'objectif.
En Allemagne, là, c'est passé à zéro pour le coup.
Super Mario a raison.
On en revient toujours à la date 2035. On finira bien, Julien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'on finira bien par repousser cette date de 2035.
Oui,
alors beaucoup plus de.
L'Italie a refait pression ces derniers jours pour trouver comment.
L'Allemagne a déjà négocié des alternatives.
Un réaménagement plus tôt, parce que normalement, il y a une revoyure en 2026. Et là, ils demandent que ça soit dès l'an prochain. Certains pays.
Il a demandé Thierry Breton en 2026.
retard, ouais. Voilà, sur cette trajectoire électrique.
Et quand on dit revoyure, quand on commence à dire revoyure en général, bon. Bref, merci beaucoup. Merci Julien Bonnet. Merci d'être venu ce soir. Thomas Asportas, merci Thomas. Emmanuel, à très vite. Edwige, à demain, 18h10.
Demain, eh ben, on verra s'il y a la fumée blanche, hein, si ça bouge. En tous les cas, s'il y a des noms qui sortent pour Bercy, mais à mon avis, il y a peu de chance. Oui. Mais il y a le grand débat, le premier débat et le seul débat, hein, je crois, entre Kamala Harris et Donald Trump demain soir. Quels sont un peu les enjeux économiques? On en parlera avec Thomas Philippon, célèbre économiste, professeur à l'Université de New York, qui sera en direct avec nous pour essayer de nous débriefer l'enjeu de ce débat.
On sera à quelques heures de ce débat, donc mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, aux alentours de 3h du matin pour nous, évidemment. Merci beaucoup à tous les quatre, 18h58, on est un petit peu en retard le journal dans un instant, on est là jusqu'à 20h, bien sûr, à tout de suite.
Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, un petit peu plus de 19h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct. Dans l'actualité ce soir, la dernière note de conjoncture de l'INSEE qui est tombée tout à l'heure. Du bon et du moins bon, on va voir ça avec Emmanuel Le Chypre dans un instant. Le rapport choc de Mario Draghi, l'ancien patron de la BCE, le dit, si l'Europe veut rester compétitive, il va falloir qu'elle investisse tous les ans 800 milliards d'euros en plus dans pas mal de domaines et il faut faire ça vers un grand emprunt commun, évidemment. On sait que les Allemands sont pas très chauds sur tout ça. Et puis la keynote d'Apple, bien sûr, ça va être le temps fort ce soir, édition spéciale Tech & Co à partir de 20h sur BFM Business, mais nous on sera déjà sur le pont dès 19h30 avec nos experts qui arrivent juste après le journal. On est ensemble jusqu'à 20h, bonne soirée. Donc, l'INSEE, la note de l'INSEE qui est tombée ce matin. Bonsoir Emmanuel Le Chypre. Qu'est-ce que nous dit l'INSEE en gros? Qu'on va faire 1,1% de croissance cette année. Après, il y a des choses encourageantes sur la consommation des ménages et moins encourageantes sur l'investissement des entreprises. Si on mélange tout ça, qu'est-ce que ça nous dit Emmanuel, finalement?
C'est vrai que maintenant que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont passés, bon, ils auront quand même apporté leur lot de croissance au troisième trimestre. L'INSEE nous dit 0,3% et c'est sans doute d'ailleurs un maximum. Effectivement, tout dépendra du résultat du match qui va se jouer entre consommation des ménages et investissement des entreprises. D'ici la fin de l'année, la consommation des ménages reprendrait un peu d'élan, nous dit l'INSEE. Leurs dépenses immobilières cesseraient de baisser après 3 années de repli continu, grâce au redressement du pouvoir d'achat, permis notamment par les augmentations de salaires et les indexations de prestations sociales. Et puis à l'inverse, on a des entreprises qui risquent de continuer à freiner leurs investissements sous l'effet des incertitudes politiques et donc fiscales, sous l'effet de la dégradation de leur situation financière et des carnets de commandes, puisque l'industrie, hein, jusqu'à maintenant, butait principalement sur des contraintes d'offres. Ça, c'était le cas jusqu'en avril. Et depuis, eh bien, les difficultés de demande resurgissent et sont désormais aussi souvent citées, particulièrement dans l'automobile. Alors, au final, dernier trimestre légèrement négatif. Croissance de 1,1% sur l'année, vous l'avez dit, Guillaume. Après, qu'est-ce qui peut faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre? C'est vrai que on pourrait se dire que les aléas sont finalement plutôt à la hausse. Les bonnes surprises, ça pourrait être finalement les exportations. Hein. On voit que les carnets de commandes étrangers sont quand même très bien garnis, notamment dans l'aéronautique. Ça, c'est un bon point. Il y a la baisse des taux d'intérêt. Donc, globalement, une année qui commencerait sans doute sur un rythme un peu supérieur à celui du deuxième semestre, qui est quand même assez chahuté. Mais disons, donc on est toujours sur ce trend de 0,2, sans doute 0,2, 0,3 points de croissance pour le début 2025.
Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité également, il y a cette audition cet après-midi de Bruno Le Maire, c'était tout à l'heure. Bruno Le Maire et Thomas Cazenave qui étaient auditionnés à Bercy par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et Bruno Le Maire qui estime contre vents et marées qu'on peut tenir l'objectif initial, à savoir ramener les déficits, les contenir à 5,1% du produit intérieur brut à la fin de l'année 2024, alors que vous savez que des chiffres avaient fuité selon lesquels on serait plus proche des 5-6. Bruno Le Maire maintient la barre. Ça aussi, on en parlera avec nos experts tout à l'heure sur BFM Business. Le message fort de Mario Draghi dans un rapport publié aujourd'hui, l'ancien patron de la BCE appelle donc l'Europe à investir 800 milliards d'euros par an en plus si elle veut rester compétitive.
Et pour investir, il faut clairement passer par le biais du grand emprunt. Ça aussi, on sait que ça fâche les Allemands. Et ça aussi, on en parlera avec nos experts tout à l'heure sur BFM Business. 19h06. Dans l'actualité, c'est l'événement ce soir, la keynote d'Apple qui va se tenir à Cupertino, en Californie. Émission spéciale Tech & Co, bien sûr, à 20h sur BFM Business. Bonsoir Mélinda d'Avansouvas. Vous êtes sur place, on l'a largement parlé. IA générative ce soir, on l'a bien compris, Mélinda.
Vous savez, chez Apple, les choses sont toujours bien organisées. En juin, on vous présente les systèmes d'exploitation. En septembre, les nouveaux iPhones qui supporteront les nouveautés logicielles. Cette keynote ne dérogera pas à la règle. Apple mise sur ses nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro pour relancer des ventes un peu au ralenti ces derniers mois. Pas de grandes nouveautés sur le design à attendre. Non, ce sera à l'intérieur. Apple présente aujourd'hui ses premiers véritables smartphones portés par l'IA avec l'arrivée d'Apple Intelligence et toutes ses promesses. Une belle révolution en vue pour Apple, histoire de se mettre à niveau de la concurrence aussi. Mais avec un souci de taille, on ne sait pas quand Apple Intelligence sera déployé sur deux marchés clés pour la marque, l'Europe et la Chine. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il faudra donc bien plus qu'une puce plus puissante, quelques fonctions nouvelles pour donner de l'intérêt aux nouveaux venus. Néanmoins, tous les analystes prédisent déjà une forte demande. Mais le salut viendra peut-être de l'Apple Watch, la montre connectée fête ses 10 ans cette année, le premier produit inédit lancé par Tim Cook en 2014, qui a su créer un véritable marché sans en être pourtant pionnier. Un marché dont Apple est leader aujourd'hui avec des millions de ventes et un produit porteur. Désormais, il se vend plus d'Apple Watch que de montres horlogères dans le monde.
Et ça, c'est assez incroyable. Merci beaucoup Mélinda, keynote d'Apple à Cupertino qui vient de commencer. On vous donnera tous les temps forts et puis édition spéciale, bien sûr, à 20h, Tech & Co avec François Sorel et toute son équipe, évidemment. Dans l'actualité des entreprises, d'abord un mauvais signal dans le domaine de l'électrique en Europe, le suédois Northvolt, considéré comme l'un des grands espoirs européens dans le domaine de la batterie, Northvolt a annoncé qu'il allait devoir supprimer des postes, sans toutefois donner de chiffres. Il a aussi annoncé qu'il allait réduire le périmètre de ses activités. Et puis Carrefour qui revient en Inde, le groupe l'avait quitté il y a 10 ans. Il va revenir d'ici l'été prochain grâce à un accord de franchise avec une entreprise basée à Dubaï qui s'appelle Apparel, qui est déjà très présent sur le marché indien. Pauline Tadevin.
L'Inde, l'un des plus grands marchés alimentaires au monde avec tout un tas de petits épiciers mais pas d'enseignes prédominantes. Carrefour veut jouer cette carte et devenir une référence, nous explique Patrick Lasfar, directeur exécutif du partenariat international de Carrefour.
Il y a eu des révolutions économiques absolument remarquables et on constate que le marché est encore assez fragmenté. Donc pénétrer en Inde, pour nous, Carrefour, avec tous les savoir-faire qu'on peut apporter, nous paraissait absolument indispensable dans notre stratégie.
Pour se donner un maximum de chance, Carrefour revient en Inde via un partenariat de franchise avec Apparel Group, qui a déjà 250 magasins. Ils comptent ouvrir leur premier petit supermarché Carrefour d'ici l'été prochain, en profitant d'un environnement plus favorable qu'il y a 10 ans.
Une stabilité politique qu'on a depuis 2014 avec le gouvernement Modi, qui a participé à la création de beaucoup d'infrastructures, l'amélioration du pouvoir d'achat des Indiens, aussi une harmonisation fiscale qui n'existait pas du tout en 2014. Et puis ensuite, il y a cette volonté, comme je l'évoquais, des classes beaucoup plus jeunes d'avoir des enseignes internationales.
Du fait des habitudes alimentaires locales, Carrefour compte moins exporter de produits vers l'Inde qu'ailleurs et plus s'appuyer sur la production locale. Et si la greffe prend à New Delhi, dans 2 ans environ avec Apparel Group, ils envisagent de se développer vers le sud du pays, Bombay, puis Bangalore.
Pauline Tadevin, et puis on voulait dire un mot de cet accord monstre signé chez Boeing hier entre la direction et un syndicat qui pèse plus de 32 000 salariés. La direction a pris le devant et signé un gros chèque là pour éviter une grève massive qui devait débuter vendredi prochain. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
Pour éviter une nouvelle crise, Boeing sort le carnet de chèques, et pas qu'un peu. Les plus de 30 000 salariés de la région de Seattle et de Portland vont être augmentés de 25% sur les 4 prochaines années. À cela s'ajoute une réduction du coût des soins de santé, une baisse des heures supplémentaires obligatoires, 12 semaines de congés parentaux rémunérés et surtout l'engagement de construire le prochain avion de Boeing dans la région. En clair, une garantie d'emploi pour les 50 prochaines années, se félicite un syndicaliste. L'accord qui doit encore être ratifié par les salariés devrait en tout état de cause éviter la grève massive attendue cette semaine. Il s'agit coûte que coûte pour Boeing de fidéliser ses salariés au moment où l'avionneur tente d'accroître les cadences de production de son 737 MAX et d'améliorer la qualité de fabrication. Objectif, 38 appareils par mois d'ici la fin de l'année. Après des mois de difficultés pour Boeing, pas question d'ajouter en plus une crise sociale. Certes, ce plan va coûter cher, mais il permet au nouveau directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, de pouvoir dérouler plus sereinement son plan de redressement.
Voilà la direction de Boeing qui achète la paix sociale. Et puis, figurez-vous, une petite révolution. L'Italie a annoncé aujourd'hui qu'elle allait relancer le nucléaire. Il n'y avait plus de nucléaire en Italie depuis la fin des années 80. C'était d'ailleurs à ce jour le seul pays des G7 à n'avoir aucune centrale en activité. Mais les choses pourraient bouger vite désormais. Raphaël Couder.
Le gouvernement italien veut créer une nouvelle entité dont le but sera de concevoir et construire de petits réacteurs modulaires, les fameux SMR. Selon l'agence Bloomberg, plusieurs énergéticiens publics italiens ainsi que la start-up Nucleo ont d'ores et déjà démarré des discussions avec les autorités. Et l'Italie souhaite aller vite. Ce week-end, le ministre de l'Énergie a annoncé la couleur. Il prévoit de proposer au Parlement dès l'année prochaine une loi réautorisant le nucléaire. L'utilisation de l'atome comme source d'énergie est un sujet particulièrement controversée en Italie depuis plusieurs décennies. Les centrales y sont interdites depuis un référendum initié en 1987, juste après la catastrophe de Tchernobyl. À la fin des années 2000, Silvio Berlusconi avait essayé de rouvrir le débat, mais l'accident de Fukushima a stoppé net cette tentative. Aujourd'hui, le gouvernement de Giorgia Meloni considère le nucléaire comme indispensable pour atteindre ses objectifs climatiques, mais aussi pour faire baisser la facture énergétique des Italiens.
Voilà, l'Italie qui va relancer c'est le nucléaire. Raphaël Couder avec nous sur BFM Business, 19h12. On retourne sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
On termine quasiment 1% de croissance sur le CAC 40.
Oui, il serait temps puisqu'on avait perdu 3,5% sur la semaine écoulée. Donc un rebond essentiellement technique. On a ramassé des titres qui étaient devenus vraiment pas chers. On signe des volumes d'ailleurs pas très importants à 2,6 milliards. Le CAC donc plus 0,99, 7 425 points. Du vert partout sur les places européennes. Et on s'est réfugié sur des valeurs, alors pour le coup très défensives. Saint-Gobain, meilleure hausse du jour à plus 2,4%, 76,84. À noter Total Energy qui se détache bien aussi, plus 1,8% à 60,96€, alors que le pétrole n'a pas fait grand chose, mais on est revenu sur le titre Total et ça a bien aidé le CAC 40. Et puis l'homme malade reste l'homme malade pour le moment, c'est Kering, moins 2,5%, plus forte baisse de l'indice, 230,30€, alors qu'on a perdu quand même 12% sur la semaine écoulée. Alors là, deux baisses de recommandations, Royal Bank of Canada et Barclays qui ont dégradé le titre, qui continue donc de s'enfoncer dans le rouge. Le CAC 40 plus 0,99, 7 425 points.
Merci beaucoup Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. On est à la mi-séance bien sûr sur le marché américain. Le Dow Jones qui grappille 1,5%, 40 961 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui aussi qui grappille 1,3%, 16 907. Tout ça à la mi-séance, bien sûr. Bientôt 19h15, les experts arrivent, ils seront là dans un instant. De quoi est-ce qu'on parle? Bruno Le Maire qui vient de nous dire qu'on pourrait peut-être contenir le déficit comme prévu à 5,1% cette année. La note de l'INSEE un peu mi-figue, mi-raisin. On parlera de la keynote d'Apple, évidemment, on va monter en puissance. Puis donc ce rapport de Mario Draghi qui dit si l'Europe veut rester dans la course, il faut investir. Mais alors massivement tous les ans. Et il faut faire ça en commun, évidemment. C'est là que le bas blesse. Tout ça jusqu'à 20h, entre autres, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h18, ils sont là, nos experts, comme tous les soirs, jusqu'à 20h pour refaire l'actualité en direct. Isabelle Bordry est avec nous. Isabelle, bonsoir.
Bonsoir, Guillaume.
Bienvenue, cofondatrice de Rétinci. Léonidas Calogiropoulos est avec nous. Léonidas, bonsoir.
Bonsoir.
Aussi, président de Médiation et Arguments, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Et puis André Lescuc-Pietri qui va nous rejoindre, président de la JEDI, qui va arriver dans 2 minutes. Ah oui, tout le monde est rentré à Paris, ça y est, c'est fini.
Ah, les embouteillages ont rattrapé l'été.
Le quotidien, après André va nous rejoindre dans quelques secondes sur BFM Business. On parlera largement à partir de 19h30, bien sûr, de la keynote d'Apple. Entrez André. On joue en direct, voilà. Les bouchons parisiens, la vie parisienne, le
la
quotidien.
La vie parisienne,
c'est ça, André. Eh oui, c'est ça, évidemment, le
il
quotidien.
Était beau le temps des JO.
il paraît déjà bien loin. Bien, vous êtes là. On parlera, je le disais, après 19h30, bien sûr, de la keynote d'Apple qui va nous tenir en haleine. C'est le grand rendez-vous de la soirée. Édition spéciale Tech & Co à partir de 20h sur BFM Business. On parlera de ce rapport de Mario Draghi aussi, qui met l'Europe face à ses responsabilités. Mais on a 10 minutes là pour parler un petit peu finances publiques, économie française. Avec Bruno Le Maire, je vous le fais rapidement, qui a été auditionné tout à l'heure à l'Assemblée nationale, au même titre que Thomas Cazenave, et qui dit non, On entend dire que les déficits pourraient dériver jusqu'à 5,6% du PIB à la fin de l'année. Moi, je me tiens à mon 5,1%. Je peux vous dire que nous allons maintenir les 5,1%. On comprend qu'il soigne sa sortie, Bruno Le Maire, mais après,
on va déjà... il a pris un certain nombre de dispositions pour geler des dépenses et il les a mis sur la table. Il dit en substance, j'ai fait le job. Si on veut contenir les déficits, il suffit de prendre ce que j'ai laissé. Maintenant, je pense que on est à un moment où faut quand même essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que la logique que nous avons tous soutenue, moi je me sens avec l'ensemble des responsables patronaux très comptable de ce dérapage, parce que c'est une politique qu'on a soutenue. D'ailleurs, on est unanime à dire qu'il faut continuer à avoir une politique de l'offre, et la politique de l'offre, elle a une logique. Consiste à soutenir les entreprises, créer des emplois. Mmh. Les emplois font rentrer des recettes. Et tout cela doit créer un cercle vertueux. Et en principe, ça doit rétablir nos comptes publics. Et d'ailleurs, plus l'emploi se porte bien, plus en principe, la totalité de nos équilibres devrait être établie.
Qu'est-ce qui se passe à Bercy? C'est Emmanuel qui nous disait tout à l'heure, ça pose des questions sur l'expertise du côté de Bercy. En début d'année, et puis de nouveau, là...
D'abord, c'est l'ampleur des dérapages qui pose un problème, mais sur l'analyse que nous pourrions partager, là où les choses ont dérapé, c'est la productivité. La productivité française est trop basse, et donc tous ces indicateurs qui devaient être positifs, qui devaient en principe créer de la richesse et faire que nos comptes se portent bien, avec une productivité qui est basse, eh bien, on n'a pas les résultats. C'est-à-dire que globalement,
Qu'est-ce qu'on n'a pas vu à Bercy fois en l'espace
un dérapage de 2, 3, 4 milliards, on peut l'imaginer. 16 milliards, on comprend pas.
On a perdu la main à Bercy ou qu'est-ce
Alors probablement, il y a eu quelque chose qui s'est émoussé. C'est en tous les cas ce que un certain nombre d'interlocuteurs me disent, c'est que lorsque l'on a commencé à parler du quoi qu'il en coûte, la direction du budget, qui en principe tenait la totalité des ministères et l'ensemble des comptes publics, et qui était capable de lancer des sonnettes d'alarme et de globalement de dire là vous arrêtez, enfin, c'était en principe la vigie de Bercy, et bien la direction du budget a perdu son pouvoir de couperet, et là on a un des effets qui est absolument flagrant, c'est un dérapage qui a pris des proportions que l'on ne devait pas avoir en principe.
Et donc Bruno Le Maire qui nous a dit tout à l'heure à l'Assemblée, mais si nous avons des crédits de gelée à hauteur de plusieurs milliards, nous avons des rentrées fiscales qui laissent penser que nous pouvons tenir ce 5,1%, limiter les déficits publics à 5,1% du PIB à la fin d'année, et pas 5,6% comme le laissait procéder certains chiffres. Comment est-ce que vous voyez cette situation, vous, André Le Scuchard?
J'ai envie d'être optimiste après les deux mois qu'on a passé les Jeux Olympiques, mais j'ai beaucoup de mal. Je pense que on a quand même aujourd'hui d'abord un problème de compétences. Je veux dire, c'est pas possible d'avoir ce genre de dérapage. J'entends quand tu dis on est tous comptables, mais on n'a pas été tous comptables d'une politique de saupoudrage, parce que c'est très bien de faire de la politique de l'offre. Mais encore faut-il qu'il y ait une stratégie. Elle est où là? En tout cas, moi, avec la malorgnette qui est l'innovation à la recherche, aujourd'hui, on donne à tout le monde. France 2030, c'est un immense saupoudrage où on a déjà décaissé, 26 milliards d'euros en 2 ans. Je ne vois aucun. Alors, ça a fait plaisir à plein de gens, à plein de start-up. Il y a plein de gens qui vont me détester en entendant ça. Mais où sont les résultats? Donc, première chose, on saupoudre. Deuxième chose, on n'évalue pas.
Parce que les boulets sont encore très forts, André, aujourd'hui.
Je pense qu'on passe beaucoup de temps à toujours dire combien on va mettre. On passe très peu de temps à une évaluation réelle. Je veux dire, on a de temps en temps la Cour des comptes qui tire la sonnette d'alarme, mais qui c'est qui lit les rapports de la Cour des comptes? Peu. Qui c'est qui en tienne compte? Personne. Donc ça, c'est quand même un vrai problème démocratique. Et troisième chose, je pense qu'il faut bien avouer, on a perdu le contrôle d'un monstre bureaucratique qui est devenu l'État. Et c'est pas d'être libéral ou non libéral que de dire ça. Je pense qu'on est devenu une administration tellement complexe que personne n'y comprend plus rien.
Isabelle, vous êtes optimiste, vous, malgré tout, ou pas?
J'espère que Bruno Le Maire a raison et qu'à la fin de l'année, le dérapage ne sera pas exactement ce qui est annoncé.
Vous ne pouvez pas nous dire autre chose.
La seule chose, c'est qu'effectivement, on manque de vision. Et c'est ce que Draghi nous a dit et nous a expliqué ce matin
Draghi,
à propos
on en parle
de l'Europe.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il faut investir, c'est sûr, il faut investir massivement, mais il faut avoir une vision et il faut porter effectivement la compétitivité diversité, dans des univers qui doivent être fléchés, qui doivent être maîtrisés et sur lesquels les industriels doivent effectivement rendre des comptes et être suivis de manière très ferme.
Non mais d'accord, on est d'accord sur l'idée, ce que défend André, qui est de dire c'est bien de dire on fait de la politique de l'offre, mais c'est pas une fin en soi, quoi.
Non, c'est pas uniquement ça. Je pense qu'il y a un élément qu'on a manqué et que l'on est en train de voir émerger en ce moment. Je pense qu'il est très important, c'est que la compétitivité, c'est aussi la capacité à avoir un pays qui est s'engage dans l'innovation, dans la croissance. Or, le manque de productivité, c'est l'absentéisme, c'est la quantité d'emplois qui ne sont pas pourvus, c'est globalement la perte de foi dans le travail. Et il faut qu'on ait, nous, une réflexion sur ce sujet, parce que souvent, on considère que la politique de l'offre, c'est soutenir l'esprit d'entreprendre des entrepreneurs, mais il y a aussi l'esprit d'entreprendre de nos collaborateurs, et ça, c'est la foi dans la valeur travail. C'est le fait qu'on s'engage en tant que collaborateur à pousser son entreprise, à être à son poste, à redoubler d'efforts. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse au fait que le travail ne paye pas assez.
Alors, justement.
Et il faut probablement qu'on l'intègre dans nos paramètres.
On a 4 minutes. Mais qu'est-ce que vous avez. Oui, Isabelle.
Il y a aussi un sujet qu'on a tendance à oublier quand on raccourcit les choses, c'est qu'on est dans une phase économique assez incroyable. Oui. Après le Covid, qui a généré effectivement un impact sur le manque de stock, de rupture de produits, et donc ça a eu un impact sur l'économie immédiate. Et puis après, le fait de la guerre en Ukraine, qui est aujourd'hui, et l'explosion du prix de l'énergie. Et tout ça sont des dimensions qui peut-être n'avaient pas été suffisamment anticipées.
Bah, l'Allemagne en a fait
au moment du budget, et qui expliquait en partie les dérapages.
Bon, qu'est-ce que vous avez 3-4 minutes avant la pause, qu'est-ce que vous attendez, puisque vous parlez de revalorisation du travail, qu'est-ce que vous attendez du futur gouvernement, celui qui va émerger, voilà. Moi, parce que si j'en croyais, si je vous écoute, André, c'est oui, on va nous dire, on continue la politique de l'offre, mais pas n'importe laquelle, pas n'importe quoi finalement. Une stratégie, toujours et encore, c'est ça l'idée finalement.
Une vision. Une stratégie.
Une vision, une stratégie, des priorités. Je veux dire, gouverner, quelqu'un disait, gouverner c'est nommer. Bon, ça y est, au bout de 60 jours, le Premier ministre est nommé.
C'est quoi une bonne politique de l'offre ? C'est quoi une bonne politique de l'offre ?
C'est de faire des choix, c'est-à-dire, sur l'énergie, quels sont les sujets essentiels ? Sur les sujets d'innovation, quels sont les sujets essentiels ? Le Premier ministre s'est déplacé à l'hôpital pendant samedi, sa première journée de fonction. Je pense que c'est essentiel, parce que quelles sont les missions régaliennes de l'État, et que l'État les fasse bien. Et je pense que ça revalorisera d'abord le personnel santé qui est absolument dévoué, mais qui est à bout. Ça revalorisera, on est en une période de rentrée, le personnel enseignant, parce que si on veut préparer l'avenir de nos enfants, de notre pays, c'est de nos enfants qui comptent. Et quand je vois qu'aujourd'hui l'école publique, il y a de moins en moins de gens qui y vont parce qu'il y a une fuite vers le privé, il faut quand même aussi l'écouter, ça. Quand 50%, je sais pas, ou 30%, pardon, 30% de la, du personnel d'enseignement de l'éducation nationale n'est pas en face des enfants, on a quand même un sujet, c'est que la technostructure est devenue immense et donc incontrôlable. Donc quelque part, les gens qui sont aux manettes aujourd'hui ne comprennent plus la boîte noire. Donc faire des choix, les expliquer et s'y tenir. Et ne pas faire plaisir à tout le monde. On a fait plaisir à tout le monde dans les 7 dernières années.
Bon, en même temps, peut-être montrer qu'on ne pouvait pas additionner et en même temps, effectivement, faire plaisir à tout le monde de manière à considérer. Mais je trouve tout de même que l'on a quelque chose dans notre pays que l'on n'a probablement pas bien diagnostiqué. C'est que petit à petit, ce glissement des charges supportées par le travail.
Alors.
Qui fait. J'aimerais bien en dire un mot si ça vous semble être le bon moment.
D'autant que vous avez une petite litote depuis une semaine, on va voir ça, une chronique qui est parue dans le journal Les Échos, qu'on va voir à l'image dans un instant. Vous le dites, revaloriser le travail.
C'est un point qui est essentiel.
C'est un point. Michel Barnier a semblé l'évoquer, ce point, dans son.
Alors, non seulement il a semblé l'évoquer, mais il faut que l'on fasse un peu le diagnostic de pourquoi est-ce que, petit à petit, on a perdu foi dans le travail. Ouais. Et vous savez que les syndicats sont très attachés aux charges sociales, charges patronales et charges salariales, parce qu'ils considèrent que c'est du salaire socialisé. Parce qu'en face, il y a des prestations et des droits. Mais au bout d'un moment, quand vous versez un salaire qui est perçu de moins de 4 000 euros et qu'il a coûté 8 500 euros au chef d'entreprise. C'est le chef d'entreprise probablement allait au maximum de ce qu'il pouvait donner.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et donc, on a une tension aujourd'hui, c'est qu'on a fait supporter sur le travail l'essentiel des charges de nos 500 et plus de 500 milliards de dépenses sociales. Or, ajuster le mix fiscal, c'est, me semble-t-il, un élément qui est essentiel parce qu'on n'a probablement pas perçu les effets pervers d'un glissement que personne n'a véritablement décidé, mais qui a probablement fini par totalement émousser l'engagement de nos collaborateurs, en tout cas de façon massive, et ça se traduit par cette perte de productivité. Ça, c'est véritablement un diagnostic presque médical qu'il faut faire, et on a porté le remède très rapidement.
Ça fait partie des termes, entre autres, qu'a employé Michel Barnier, je pense. Enfin, c'était le discours sur le perron de Matignon, après on verra ce qu'il en restera.
Est-ce qu'il y a une TVA sociale à la clé ? C'est en tous les cas le remède que tout le monde diagnostique en disant que c'est pas vendeur électoralement.
Non, mais ce qui est effectivement évident, c'est qu'aujourd'hui on sent un appauvrissement des Français, alors même que les salaires n'ont cessé d'augmenter en tous les cas sur les derniers mois, et que la charge fiscale qui est liée n'a cessé d'augmenter. Donc se pose la question de l'efficacité de l'investissement social. On parlait tout à l'heure, effectivement, de l'hôpital. L'efficacité des impôts, aujourd'hui, n'est absolument pas perçue, alors qu'ils sont, pour une partie très importante, capteurs de la valeur ajoutée qu'essaie de créer la France.
Non, moi, André, là-dessus.
Oui, je vais vous donner un exemple concret, parce que je pense que j'ai eu malheureusement quelqu'un de ma famille qui était hospitalisé à l'hôpital Bichat. L'hôpital Bichat, 40% des lits sont aujourd'hui fermés. Et on est parce que on économise sur les investissements qui ont été faits. Et ce qui reste, c'est une capacité très faible d'embaucher des gens qui sont souvent en plus des gens qui sont en tout premier emploi. Alors les gens sont dévoués. On a un personnel médical de pointe. On a un personnel soignant totalement dévoué qui est payé. Enfin, je ne sais pas comment ces gens peuvent vivre dans la région parisienne. Enfin, c'est quasiment impossible. Et donc, on sent bien qu'aujourd'hui, en fait, on gère extrêmement mal. On a des investissements très lourds en termes de structure, mais qu'on ne peut pas ouvrir. 40% des lits fermés, tout simplement parce qu'on n'a même plus les moyens de payer du personnel. Donc là, on a un vrai problème de gestion de base de l'État qui est un
et globalement de maîtrise de notre destin collectif.
Il faut avoir connu un peu les hôpitaux pour savoir ce que c'est effectivement au quotidien. Allez, 19h31 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h36, on est reparti avec Leonidas Kalogeropoulos, avec Isabelle Bordry, avec André Loscu-Pietri. Alors Apple, donc la keynote qui vient de débuter du côté de Cupertino aux États-Unis, bien sûr. Édition spéciale Tech & Co à partir de 20h, évidemment. François Sorel, tous ses invités. Il y a une petite vidéo là apparemment qui a été présentée avec une prise de parole de Tim Cook. Je cite, « Nous sommes ravis ». C'est pas une surprise, hein, de présenter les premiers iPhones conçus dès le départ pour Apple Intelligence. Voilà, disait, j'aime beaucoup la formule de l'AFP, les premiers iPhones infusés à l'intelligence artificielle générative. Alors voilà, c'est la question qu'on pose. Est-ce que pour vous, c'est une année charnière pour le groupe ? Est-ce que vous croyez que Apple pourra aujourd'hui, demain, véritablement capitaliser sur l'intelligence artificielle générative ? André, comment est-ce que vous regardez ça ?
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'Apple, pendant longtemps, était parmi les GAFAM, alors maintenant on appelle ça les Magnificent Seven, c'est la société qui était moins portée sur l'IA. Pas celle qui a fait les premiers paris. Et là, on sent que, aussi, grâce à son trésor de guerre, elle peut se permettre de rattraper, de faire des grands paris. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, elle sent aussi probablement qu'elle est arrivée à la limite des prix qu'elle peut demander à ses consommateurs, ouais. À ses clients, d'où les baisses de prix. Ensuite, on sent aussi qu'on est dans une phase de transition, c'est-à-dire l'IA. On est vraiment dans le cycle de la fameuse courbe de Gartner. D'abord, il y a cette excitation fabuleuse. Il y a exactement, maintenant il y a un an et demi, 18 mois. Il y a 6 mois, on nous promettait vraiment un avenir radicalement bouleversé, et depuis quelques semaines on sent bien que le sujet de productivité, d'impact réel seront plus lents
les cas d'usage,
à obtenir. On est dans une phase de formation extraordinaire, et ce qui se passe dans toutes les organisations est extraordinaire, et je pense que Apple veut se retrouver et en fait veut faire tester, je pense utilise son énorme base de clients pour tester les cas d'usage, c'est une société qui est évidemment au cœur
de cette interaction entre client et la machine.
Donc en aucun cas vous dites que des concurrents comme Samsung qui ont déjà mis sur le marché hein, des téléphones justement infusés, j'aime beaucoup l'IA générative, c'est pas rédhibitoire.
Ouais, je pense que c'est formidable pour la stimulation du marché.
Bien sûr.
Très saine concurrence. Quand Steve Jobs a lancé sur le marché son iPhone, c'était une complète rupture technologique. C'était une rupture technologique en termes de hardware, c'était une rupture technologique en termes de logiciel, d'interface utilisateur.
Ouais.
Et depuis maintenant un peu moins de 20 ans, on s'aperçoit qu'il y a eu des améliorations par touche. On a amélioré l'appareil photo, on a amélioré le hardware d'une manière générale, les capacités de calcul, le logiciel, mais il n'y a pas eu de rupture d'interface. Et donc tout le monde attend effectivement de l'IA qu'il y ait à un moment donné cette rupture. Alors après, on a beaucoup parlé du blockchain. Il y a 5 ans, il y a eu la mode du blockchain.
Le métaverse.
Du métaverse, ouais, qui nous promettait un deuxième monde absolument formidable. Je pense que l'enjeu là est plus un enjeu d'interface, c'est-à-dire dans 10 ans, est-ce qu'on sera accompagné d'un agent intelligent qui sera peut-être les AirPods, qui sera peut-être la montre, qui sera peut-être tout sauf un écran? Et on pourra effectivement, éventuellement, intégrer des morceaux du monde digital dans le monde réel. C'est-à-dire ce qu'a fait Steve Jobs en 2007, il nous a permis dans la mobilité, dans la vie quotidienne, d'accéder en permanence au monde digital. Mais aujourd'hui, le monde réel et le monde digital sont encore côte à côte, on va dire. Et je crois que tout l'enjeu en termes d'interface, et c'est ce qu'Apple a commencé à démontrer il y a 6 mois lorsqu'ils ont lancé leurs nouvelles lunettes, c'est d'intégrer les deux, c'est-à-dire de mixer les deux, c'est-à-dire de voir Guillaume et à côté d'avoir un message de mon fils qui m'explique que les cours se terminent plus tôt ce soir. Et donc d'avoir un mélange de la réalité virtuelle ou digitale et de celle que l'on vit tous les jours. Et je pense que c'est ce qu'attend le marché. Ça demande beaucoup de capacité de calcul.
Oui.
Et donc beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'investissement, et on en revient à la discussion de départ.
Donc la vraie révolution n'est peut-être pas pour cette année chez Apple. Peut-être que ça sera vraiment dans 1 an, 2 ans, une fois que on aura.
Oui, peut-être. Peut-être que c'est pas le moment charnière où on a une nouvelle rupture de la même intensité.
Ça fait des années qu'on l'attend effectivement, ce nouvel effet waouh chez Apple. Voilà.
Est-ce qu'il y a un effet waouh tous les ans? Enfin, c'est pas tout à fait évident d'être tous les ans sur une rupture de cette nature. C'est vrai que on se souvient tous de Metaverse qui devait être soudain un nouvel univers. Je crois que on l'attend un peu et puis on se dit finalement c'était pas là. Moi, ce qui me préoccupe à chaque fois, et c'est le cas aussi avec l'intelligence générative, l'IA générative, c'est aussi quand même de veiller à ce que ce ne soit pas des espèces de siphons dans lesquels on prend la richesse de tous les autres acteurs que l'on a autour, et il n'y en a qu'un seul qui arrive à la faire prospérer. André parlait tout à l'heure des 7 sociétés qui dominent le numérique. Leurs pratiques monopolistiques sont quand même un véritable problème, et à chaque fois, là, on l'a avec l'App Store d'Apple, on l'a avec l'ensemble des, on l'a avec Google, on l'a systématiquement. C'est la frustration, elle est quand même terrible, et je pense qu'on la partage tous ici, c'est que l'on parle de ces technologies qui nous arrivent d'outre-Atlantique. Ça va nous amener certainement sur le rapport de Mario Draghi.
Bien sûr,
malheureusement, on n'attend pas la même chose d'un grand acteur du digital français ou européen.
André,
c'est quand même une grande frustration.
André, mais je vais faire un lien avec notre discussion précédente, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte en entendant Isabelle ou Leonidas, c'est qu'en fait, il y a eu toujours des expérimentations. Il y en a plein qui n'ont pas marché. Celle que Steve Jobs a lancée avec cette interface radicalement nouvelle, cette capacité d'intégrer les apps, les contacts, c'est une expérimentation qui a marché. Donc la conclusion, c'est qu'il faut expérimenter sur l'ensemble du tableau. Zuckerberg a expérimenté avec le métaverse, ça n'a pas marché, ça marchera peut-être dans 2-3 ans.
Il s'en porte bien pour autant. Hein.
Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'expérimente pas, si on n'a pas ces espèces de visions où on se dit c'est là où il faut aller, on est sûr de perdre. Et on revient sur un état d'esprit, c'est-à-dire que si on se disperse parce qu'on ne sait pas où on va, on est sûr de perdre. En investissant parfois le même argent. Nous, on donne toujours ces exemples. En fait, les montants d'innovation en termes de recherche fondamentale, je ne parle pas maintenant en termes de technologie, aux États-Unis et en Europe, sont équivalents. Mais qui aujourd'hui est capable de transformer ça? Parce qu'il y a ces grands paris. Et Draghi dit exactement ça.
Il a cette phrase.
Nous dilapidons nos ressources communes parce qu'on veut tout faire.
Qu'est-ce que vous attendez de Steve Jobs ce soir? De Tim Cook, pardonnez-moi, de Tim Cook, excusez-moi, voilà, c'est une époque, on parlait de
Steve Jobs tout à l'heure.
Un peu ça. Qu'est-ce que vous attendez de Tim Cook? Il ne va pas vous sortir les cas d'usage ce soir, Tim Cook. Qu'est-ce que vous attendez de sa part ce soir sur scène? Quels arguments? Pour vendre le fait que la révolution est en marche.
Évidemment, Apple a enchanté quelque part tous ceux qui aiment la technologie. Et c'est vrai que d'avoir des innovations qui, soudain, sont des cas d'usage nouveaux, et on se dit, on va l'avoir en main, il y a quelque chose de fascinant que la maison Apple a été capable de porter. Et j'imagine que c'est ça qui fait rêver le monde.
Isabelle.
En fait, c'est changer nos vies quotidiennes.
Oui.
C'est comment ces agents intelligents, ces nouvelles interfaces vont changer nos vies quotidiennes. Ce qu'ils ont déjà fait depuis maintenant 10 ou 13 ans. Et je pense que le sujet européen, et que l'on va traiter avec Mario Draghi, c'est le sujet de taille, d'espace de marché pour expérimenter. Mmh. Est-ce que la force des États-Unis et la force de la Chine, c'est la taille des marchés au-delà, effectivement, des investissements.
Une cause ancienne d'André.
D'accord, Isabelle est une vraie Jedi, c'est
mais
formidable.
Oui, mais bien sûr,
mais vous
êtes tous un peu de Jedi autour de cette table, je le rappelle.
Et l'État a dit ça il y a 6 mois. Enfin, de toute façon, l'Europe est fabuleuse pour faire des rapports. Donc, il y a eu le rapport de l'État de l'ancien Premier ministre. Maintenant, on a l'ancien Premier ministre, président du Conseil italien. Mais non, absolument, il ne faut pas oublier, il y a à la fois l'expérimentation, les grands paris. Ça, c'était Steve Jobs. Mais je pense que ce que Tim Cook, pour répondre à votre question spécifiquement, c'est cette capacité aussi ensuite Apple de raffiner et d'optimiser l'interface utilisateur. Et je pense qu'aujourd'hui, on essaye tous ChatGPT, on va sur les prompts. Qui c'est qui est allé au-delà du prompt de base? Très peu. Je disais un rapport que dans les utilisateurs d'OpenAI, enfin 4.0, GPT 4.0, il n'y en a que 0,01% qui utilisent la fonction codage automatique. Si grâce à ces outils, ces interfaces, comme le dit Isabelle, on peut rendre ça beaucoup plus transparent, fluide pour les utilisateurs, mais ça serait un enchantement. Moi, je compare ça avec la différence entre, je ne veux pas faire de pub pour Apple, mais Apple a séduit tout le monde avec les appareils photo intégrés, le fait de...
Oui.
Mais ensuite, chaque génération faisait des photos encore plus merveilleuses avec la profondeur, les flashs, etc.
Bien.
Et ça nous rend fidèles.
Alors, Mario, je sens que vous avez envie de parler de Mario Draghi et de l'Europe. Donc, Mario Draghi, effectivement, appelle à sortir l'Europe de sa torpeur.
Tom Cook à nous.
Rapport choc aujourd'hui de Mario Draghi, qui a beaucoup fait causer, qui pose la question comment rendre l'Europe plus productive. Il dit qu'il faut plus de productivité, on en parlait, plus d'investissement dans bien des domaines, l'écologie, la défense, l'innovation. Et pour ça, il le dit, ça c'est le mot qui fâche, il faut faire plus d'emprunts au commun au niveau européen. Écoutez Mario Draghi ce matin.
Un financement en commun sera nécessaire pour des projets clés, ce sera nécessaire pour les réseaux, ce sera nécessaire pour les innovations de rupture. Et faire un financement en commun pose la grande question, qui ne prend pas beaucoup de place dans le rapport, parce que c'est seulement une question d'instrument pour atteindre l'objectif. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il faut un grand emprunt en commun? Oui. La réponse est oui. On a besoin d'un financement en commun, et cela passe par une dette en commun.
Et ça, c'est le mot qui fâche par excellence, Leonidas. On sait très bien que personne, à part la France, est encore disposé à faire de l'emprunt en commun aujourd'hui.
Il y a quand même un certain nombre d'avancées qui ont été non pas planifiées, non pas prévues dans les traités, mais que dans la praticité, l'Europe a permis d'expérimenter, notamment avec le Covid. Il y a eu ces grands emprunts. Et donc finalement, à propos de stratégie, Mario Draghi est en train de donner un cap à ces instruments et de dire il faut qu'on s'en empare et qu'on les mette à l'échelle. Et l'échelle, elle est donnée par nos concurrents.
800 milliards.
Et par les États-Unis. Et si on n'est pas à la hauteur, eh bien, on n'y arrivera pas. Et finalement, il tire une sonnette d'alarme. Il dit qu'on est en perte de vitesse et on est en perte de vitesse générale sur la productivité, effectivement, sur l'innovation, sur l'enrichissement. On a presque l'impression que l'image que nous renvoie Mario Draghi, c'est une Europe qui s'appauvrit en même temps que ses deux concurrents principaux sont en train de prendre le leadership. Et donc là, je trouve que c'est un électrochoc salutaire au-delà même de la question.
Il est dans l'angélisme le plus total. Il sait très bien que ce sont des mots repoussoirs, emprunt commun, dette commune. Enfin,
je ne sais pas, parce que le propos est extrêmement clair. Le propos est extrêmement clair. Et on a assisté ce matin à une leçon d'économie. Mais
et puis c'est Mario Draghi.
Très, très détaillé, avec une autorité d'homme politique, de professeur, de président de la BCE, qui explique que la variable d'ajustement de la monnaie, telle qu'il l'a utilisée lorsqu'il était à la tête de la BCE, n'est plus suffisante. Et qu'aujourd'hui, ce qui est absolument nécessaire, notamment depuis la crise du Covid, mais aussi parce qu'il y a guerre en Ukraine et donc explosion des prix de l'énergie, il faut de la compétitivité. Donc il faut éviter d'augmenter les barrières douanières, ce qui est le réflexe que l'on voit aujourd'hui. Vous parliez d'appauvrissement, c'est exactement ça. Aujourd'hui, quand il y a un vote qui est un vote révolutionnaire, soit LFI, soit RN, soit extrême droite, comme on voit en Allemagne, ça révèle quoi ? Ça révèle un malaise énorme qui est lié à l'économie, qui est lié à un appauvrissement. Et effectivement, depuis 20 ans, la France, mais aussi l'Europe, a des écarts d'évolution de PIB et de croissance qui sont de plus en plus gigantesques par rapport à la Chine et les États-Unis. Donc l'Europe se déclasse, donc les gens le sentent, donc ils veulent des réactions. Ce que nous explique aujourd'hui Mario Draghi est très simple, c'est de dire on ne pourra pas continuer à laisser les Chinois subventionner les green tech avec les panneaux solaires qui envahissent, avec les voilà. Donc il faut absolument investir dans la transformation de nos économies, que ça soit du côté des green tech et du digital, et il faut assurer aussi la sécurité des populations.
Et donc en fait, on revoit un peu.
Ce qui a été fait il y a 40 ou 50 ans, entre autres par le général de Gaulle, dont dans les dernières campagnes politiques, tout le monde se prévalait, c'est j'investis dans une énergie, le nucléaire, de manière claire, est-ce que c'est bien ou pas. En tous les cas, aujourd'hui, il y a un choix qui a été fait dans les industries et dans les infrastructures. Et en gros, Mario Draghi dit la même chose. Mais si on veut continuer à être en pointe, il faut avoir le même type de démarche.
André, qui œuvre, la Jedi, on rappelle, qui œuvre sur ces questions de compétitivité européenne à longueur d'année. André, est-ce qu'il est angélique là,
on a eu la chance d'être interviewé par l'équipe de Draghi et j'ai eu la chance de voir le grand homme début août. Donc je passe. En tout cas, beaucoup de nos arguments, qui sont notamment le sujet qu'il faut investir sur le coup d'après et ne pas à nouveau dilapider nos ressources humaines, ça c'est les mots du rapport actuellement sur le coût de maintenant et sur les technologies de maintenant, ça a été repris. L'autre chose, et il parle des 800 milliards, mais en parallèle, il parle aussi, et ça je pense qu'il faut insister là-dessus, parce que ça on n'a pas trop envie, il faut changer nos méthodes. J'avoue que j'ai un grand doute parce que la récipiendaire du rapport, donc Madame von der Leyen, je crois, s'est révélée et son équipe comme une fabuleuse gestionnaire de crise, mais on a empilé les structures de gouvernance, on a fait de la commission, Dieu sait que je suis européen convaincu, quand même un organisme bureaucratique invraisemblable. Et je rappelle qu'il y a exactement une semaine, la Cour des comptes européenne, sur le fameux emprunt de 750 milliards qui avait été levé en mai 2020 pour le Covid,
et qu'il va falloir rembourser,
l'a étrié en disant vous n'avez dépensé que 30%, 35% de l'argent en 4 ans et demi. Donc, un, vous n'êtes pas allé assez vite. Deux, il n'y a aucune mesure d'impact. Qui c'est qui peut me dire ce qu'a été l'impact de ces 150 milliards. Donc c'est là où ça va être très compliqué. C'est-à-dire, si on ne change pas les méthodes, c'est ce que dit Draghi, il n'y aura évidemment pas de capacité de lever de l'emprunt en commun. Mais je crois qu'il y a un chemin étroit. C'est est-ce que les différents gouvernements, à commencer par le gouvernement français, mais aussi le gouvernement allemand, sont capables de dire on va arrêter des choses. On va arrêter
les déjà envoyer des gages de stabilité budgétaire chez soi avant de plaider pour un doublement du budget européen et tutti quanti, André. Voilà, c'est aussi ça finalement. Oui, Isabelle, pardon, très vite.
Mais il y a aussi un sujet qui était vraiment intéressant, c'est le côté antitrust. C'est-à-dire que Mario Draghi a expliqué qu'il fallait qu'effectivement les organismes antitrust ne raisonnent plus uniquement sur le marché européen, mais sur le niveau mondial, et qu'ils s'assurent que les groupes et la capacité effectivement d'innover. Donc au lieu de casser un groupe européen, de le mettre effectivement dans une dimension mondiale pour s'assurer qu'il est capable, et voilà, et de ne pas casser les dynamiques européennes.
Mais donc, je trouve, en tous les cas, que c'est vrai que...
Une prise de conscience sur l'importance de la taille de marché et sur la nécessité d'investir rapidement.
Le voilà marché pertinent, c'est le monde. Oui.
C'est le monde.
C'est le monde. Cela dit, je trouve que rapport de Mario Draghi, c'est un reflet de la situation française. Ouais. Presque la France, un peu le laboratoire de tous les maux de l'Europe, entre la désindustrialisation et la productivité en berne, voilà, les premiers concernés.
C'est un beau copier-coller, comme on dit. Allez, 19h53, l'extra time pour finir. Vos avis du soir, 30 secondes, coup de gueule ou coup de cœur, bah ça c'est à votre libre arbitre. Évidemment, qui va commencer? Bah Isabelle, tiens, c'est à vous. Allez-y.
Alors moi, c'est les Jeux para-olympiques, parce que je trouve que cet été, il s'est passé quelque chose de formidable. Il y a eu ces Jeux olympiques qui ont transporté tous les Français, et les Jeux para-olympiques qui ont complètement bouleversé chacun d'entre nous. Et donc, les places ont été démultipliées, les organisateurs en attendaient 750 000 billets vendus, on a eu 2,5. L'audience attendue en télévision était de 30 millions, elle est allée à 49 ou 50 millions. Donc, un engouement extraordinaire, et j'espère que cet engouement se continuera de manière généreuse avec nos 9 millions d'handicapés en
absolument,
France.
Absolument, faut continuer.
Qui seront, j'espère, de mieux en mieux inclus dans nos vies professionnelle et quotidienne.
Le coup de cœur ce soir d'Isabelle Léonidas, 30 secondes.
C'était 30 secondes un peu rapide, peut-être moins que 30, pour souligner quand même que nous avons eu un Premier ministre qui est probablement le Premier ministre le plus pacifié que l'on puisse avoir dans le climat politique que nous avons. On lui a quasiment promis un comité d'accueil qui devait être révolutionnaire ce samedi et à l'évidence a fait flop. On peut peut-être imaginer que il y a encore une espèce d'ambiance de consensus qui reste de ces JO et la volonté de casser notre pays est peut-être beaucoup reflué. Et en tous les cas, j'ai le sentiment que depuis le début de cette semaine, on peut espérer que cette séquence va être prometteuse et constructive.
Coup de cœur, emprunt d'espoir de la part de Leonidas ce soir. André, 30 secondes.
Je vais rester dans cette ambiance positive.
Je pense que quand on montre un cap clair, comme on l'a vu pendant les JO, mais surtout qu'on ne s'arrête pas à la vision, mais qu'on l'exécute dans le plus parfait détail.
On a délivré.
Je pense que ce qui a impressionné les étrangers qui sont venus chez nous, mais les Français et les Parisiens en premier, c'est à quel point tout a été huilé. La sécurité, le métro, la signalétique, etc. Donc la clé dans le monde, dans le 21e siècle, c'est vraiment la capacité d'exécution sur le budget, sur l'innovation. Bon, donc il y a de l'espoir.
Comme quoi on s'est délivré, voilà la grande leçon de ces dernières semaines. Merci à tous les trois d'être venus ce soir. Isabelle Bordré pour Retency, Leonidas Kalogiropoulos, Médiation Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Et André Lostuc-Pietri, président de la JEDAI, qui œuvre tous les jours sur ces questions de compétitivité en Europe. Merci beaucoup, à très vite, avec plaisir.
Merci
à tous les
beaucoup.
Trois sur BFM Business, 19h56. Tech & Co, la keynote d'Apple, toute la soirée à vous faire vivre sur BFM Business, bien sûr. Nous, on se retrouve demain, 18h. Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.